Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité.
Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi.
Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains.
Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs.
L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés.
On appelle ça l'altruisme intéressé.
Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 22. Je procède au rappel de notre émission. Vous pouvez nous contacter à notre adresse email, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent, sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Donc, cette adresse, bien sûr, vous permet de nous proposer des articles, de nous poser des questions, de nous envoyer des témoignages personnels ou de nous poser des questions. Bref, c'est un petit peu le moyen d'entrer en contact avec nous, bien évidemment, et bien de soumettre votre requête. Alors j'enchaîne avec, bien évidemment, la possibilité pour vous, enfin, ceux qui le souhaitent, bien sûr, de nous soutenir financièrement, exclusivement en don par crypto-monnaie Monero. Je pense que tous nos auditeurs le savent maintenant, mais nous recourons exclusivement à l'usage de Monero qui permet aux transactions de rester totalement anonymes. Donc ça protège l'anonymat de la personne qui fait le don, cela protège aussi l'anonymat de la personne qui reçoit le don, ainsi que le montant de la transaction. Alors nous on l'utilise bien sûr pour financer le site, ses activités, mais c'est un moyen de paiement que je ne saurais trop recommander à nos auditeurs s'ils ont de l'argent à envoyer à tel ou tel, et qui n'ont pas nécessairement envie que le gouvernement français fourre son nez dans ces transactions. Voilà, c'est une excellente crypto-monnaie. Nous avons reçu des dons cette semaine, nous en recevons toutes les semaines, mais nous avons reçu des courriers de donateurs qui se manifestent après avoir fait des dons. C'est bien la moindre des choses pour nous que de les remercier. Premier don. Bonjour à tous, chers camarades participatifs. Je prends enfin ma plume pour vous écrire et surtout associer un modeste don de 0,64 Monero, soit environ 40 euros de ma part, ainsi que d'un autre démocrate. Je voulais le faire depuis longtemps, c'est aujourd'hui chose faite. Dommage que ces dons ne puissent pas être déductibles des impôts ou remboursés par la Sécu. Quitte à donner de l'argent pour soutenir une noble cause, autant financer Démocratie Participative pour ses émissions de qualité, ainsi que pour le forum Europe Écologie. Les Brins, effectivement, j'ai oublié de le citer, allez-y, hein, eelb.su. Qui permet entre autres de débattre autour de sujets d'actualité ou historiques, de partager des expériences de vie ainsi que notre vision du Quatrième Reich. Mieux vaut ça que financer les associations pour l'accueil des sous-races. Je traîne mes guêtres sur la fachosphère internet mais aussi en réel à l'occasion depuis 2006 environ, et j'ai rapidement peaufiné ma vision du monde, mais pas tant grâce à cause de ces forums que de lectures classiques, type Mabir, Saint-Loup, etc. ou de livres d'histoire en général. Je ne crois absolument pas dans le militantisme à l'ancienne, collage d'affiches et compagnie. Alors la seule solution qui sert un peu à quelque chose reste bien la méthode d'épée. On sauvera peut-être quelques meubles, bonhomme ainsi. Je pense que l'émission gagnerait à aborder un thème histoire, peu importe le lieu ou l'époque, chaque semaine. Certes, ça demande de bosser un peu le sujet en aval, surtout quand on creuse dans le temps ou qu'on va loin géographiquement. Les thèmes ne manquent pas. Vous pourriez ainsi aborder les périodes dans l'ordre chronologique, néolithique, ère celtique, gauloise, la guerre des Gaules, accessible et facile, etc. Et aussi sur des pays étrangers, même lointains. Mais je m'égare, recevez donc ce don modeste, il y en aura d'autres. Vive la liberté d'expression et merde à la sale négresse Avia. Et salutations fascistes, et c'est Marcel Bucard et John Lénine, donc deux donateurs en fait qui se sont manifestés. Eh bien merci beaucoup Marcel Bucard et merci John Lénine, c'est bien la première fois que je remercie un Lénine de ma vie. Deuxième don, bonjour cher démocrate participatif, si je vois un petit don qui devrait être plus régulier à l'avenir, et c'est signé Kilia, merci beaucoup à Kilia de son soutien. Un troisième don, bonsoir cher démocrate participatif, je viens de vous transmettre 0,58 Monero, amitié, et c'est signé un Lyonnais qu'on salue aussi, et qu'on remercie, c'était pas la première fois qu'il faisait une donation. Alors, le quatrième don, bonjour à votre équipe. Veuillez trouver ci-joint un screenshot de ma récente transaction de 0,28 Monero vers votre portefeuille. Je recommande à tous ceux qui souhaitent vous aider d'utiliser changenow.io. On en avait parlé la semaine dernière, ça avait été discuté, peut-être il faudra approfondir cette discussion d'ailleurs sur la pertinence de cette plateforme. Une transaction prend littéralement 5 minutes et vous permet de faire vivre le meilleur site journalistique francophone. En complément de mon don, j'aimerais vous faire partager une brève anecdote négrologique qui, je l'espère, réchauffera le cœur des Ariens des territoires occupés du Franquistan. Alors, donc, il s'adresse notamment au seigneur d'Éric. La présentation des membres arrive, n'ayez crainte. Monseigneur d'Éric, pardonnez-moi car j'ai péché. Durant le mois de mars, alors que je me baladais en voiture sur une des routes de campagne de mon Lebensraum américain, que vis-je ? Un lican ladidon. Le dieu des Français, un fier représentant de la race maudite, un nègre, gras et barbu, marchant d'un air hébété, traînant les pieds dans la neige. Cette sous-race, étant si rare dans les contrées reculées de mon paradis blanc, j'en profite toujours pour fixer ces démons marrons, des yeux, lorsque j'en croise un, perché du haut de mon SUV, on m'amuse de feinter exagérément la surprise avant d'en bousculer un dans les allées de supermarché. Alors que le concoïde arrive à la hauteur de ma voiture, je l'observe ouvrir les boîtes aux lettres à clapet des demeures aux alentours, afin d'y extraire leur contenu et de les jeter par-dessus son épaule tel un macaque sous crack. Outré, j'agrippe mon frein à main, sors mon téléphone, compose le 911. Donc notre auditeur réside aux États-Unis. Hein. Partage mon nom avec l'opérateur et signale une violation de propriété privée. Car oui, ouvrir une boîte aux lettres dans le pays de Donnie, donc Trump, est un crime fédéral qui peut vous coûter jusqu'à 250 000 dollars et 5 ans de prison si vous attendez à l'intégrité du courrier d'autrui. Que Dieu bénisse l'Amérique et sa sainte propriété privée. Voyant ce sale nègre continuer ses méfaits, je me gare sur le bord de la route et le suis de loin, par curiosité en attendant les renforts. Au bout de 15 longues minutes et une bonne dizaine de boîtes aux lettres vandalisées, je vois une voiture de police arriver au loin. Con comme un balai à chiottes, le nègre se mit immédiatement à courir dans le sens inverse de la voiture, vers moi. Je regrette immensément de ne pas avoir filmé ce qui suivit. Au terme d'une course-poursuite de 3 minutes, et alors qu'il courait en côte raide et se débattait violemment, un policier de 2 mètres sur 2 lui asséna une énorme droite sur le coin du museau, avant de le voir se ramasser au sol, la tête la première, tel un culbuto. Après avoir menotté la bête sauvage, les policiers s'approchent de ma voiture. J'en profite pour les féliciter pour leur belle prise et nous échangeons cordialement afin de constater les dégâts, confirmer mon identité et mes propos tenus au téléphone. Au moment où le nègre fut jeté à l'arrière de leur voiture, j'apprends des deux policiers que ce criminel était recherché par la ICE, Immigration and Customs Enforcement. Donc c'est la police aux frontières en fait. La police spécialisée dans la lutte contre l'immigration illégale. Ce Jamaïcain a été dénoncé par l'hôtel qu'il employait, sûrement comme plongeur, son visa de travail ayant expiré depuis plusieurs semaines. Avant de me serrer la main, le colosse ayant asséné un crochet dévastateur au bipède mélanisé m'assura que ce dernier passera les prochains jours en prison fédérale sans sa dose de cool head à la pastèque avant de se faire réémigrer direction Kingston. Que cherchait-il dans ces boîtes aux lettres ? Seul notre cardinal en négrolatrie saurait nous éclairer. Les voies de l'éther nègre sont impénétrables et ses instruments inconscients viennent parfois se heurter à notre destin de façon bien mystérieuse. Prions l'éther nègre, et c'est signé, là je livre le courrier tel quel, Pierre-Yves Rouge et Con. Voilà. Alors, j'en profite pour entamer la présentation des membres, et bien évidemment, surtout en cette semaine, l'intéressé, l'autorité spirituelle de démocratie participative, interviendra. Mais commençons par le commencement. Donc je remercie tous nos donateurs, bien évidemment. Je remercie aussi Pierre-Yves depuis ses États-Unis de nous avoir fait partager cette anecdote. Je me permets quand même unilatéralement de lui décerner une croix de fer, pour le coup, de première classe, parce que bon, c'est peut-être le premier nègre que nous avons remigré. Hein. Donc c'est intéressant. Alors, je commence avec Pierrot qui est avec nous cette semaine. Comment vas-tu, cher Pierrot ?
Ça va très bien, Gandalf, je te remercie, et ça fait plaisir de vous retrouver, comme chaque semaine.
Tout à fait, ça fait d'autant plus plaisir de se retrouver qu'on commence avec donc l'expulsion d'un nègre, je suis enthousiasmé. Fulbert est avec nous aussi cette semaine, comment vas-tu, Fulbert ?
Fulbert va bien, merci Gandalf, je vous salue tous, et toi aussi Gandalf, bien sûr.
Merci, merci. Est aussi avec nous cette semaine Alexis, qui nous fait l'immense plaisir d'être avec nous encore une fois. Salut Alex.
Salut Gandalf, salut tout le monde.
Diabolix est avec nous, très occupé Diabolix, mais qui trouve toujours un créneau pour partager quelques heures ensemble. Comment vas-tu ?
Merveilleusement bien. Je salue tout le monde, et puis bon, première exportation négrielle, pourvu que ça dure.
Ça appelle à faire des émules, hein, ça c'est certain. Est enfin avec nous cette semaine. Alors là, je crois qu'il faut se recueillir ensemble. Là, il faut se concentrer, méditer, car c'est une semaine tout à fait particulière. C'est une semaine qui couronne 5 ans d'un très long travail d'éveil, hein, des masses de sa part. Je parle bien évidemment de son excellence, hein, de Monseigneur le cardinal Derrick, cardinal d'une église qu'on ne saurait plus présenter maintenant, elle est maintenant mondialement connue, l'église de négrolatrie, dont la révélation est advenue enfin, ça y est, le dévoilement a eu lieu,
ouais.
Ça y est, nous y sommes, comment dirais-je, cher cardinal, je suis...
Eh bien, le 21e siècle sera le nôtre, hein, cher ami, sera le siècle du nègre, hein, ça y est, enfin, il est révélé...
Il est révélé, là.
Il est révélé au monde entier, le pénis magique du nègre sous fentanyl est arrivé, donc une trifonctionnalité, hein, une trinité plutôt, l'éther nègre, George Floyd et sa bite. Hein, ça fait un tout, ils ne forment qu'un, ils sont Dieu, hein, c'est tout ça.
La nouvelle trinité et, de l'Occident. Hein.
Oui, la religion de l'Occident avec des... Bon, on en parlera un petit peu plus tard une nouvelle catégorie de...
Oui, on fera de la sociologie spirituelle.
On fera un petit peu de sociologie spirituelle, mais ouais, il y a des prêtres dans une nouvelle catégorie sacerdotale.
Tout à fait.
Des disciples. Il y a beaucoup à en dire. Et eh bien, nous n'avons pas manqué de développer tout ça.
C'est quand même un grand moment parce que cardinal, vous l'aviez annoncé quand même depuis de longues années ici, 5 ans de prêche inlassable annonçant l'incarnation hein, de l'envoyé de Dieu et Dieu lui-même, et il s'est dévoilé face à nous. Voilà, c'est George Floyd.
Il m'a été rapporté des fresques, des miracles. Il m'a été rapporté même que sur le forum ELB, des auditeurs hein, qui pourtant j'écoute depuis longtemps et savent de quoi il en retourne. Il était un petit peu déjà dubitatif quand nous parlions de l'éther nègre, ce genre de choses.
Oui, parce que peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait perçu capacité de prophétiser, en fait, je pense.
Oui, beaucoup de gens voient les Arabes, parce que
ils sont bruyants.
Les Arabes, c'est bruyant, les Juifs aiment beaucoup mettre en avant les Arabes.
Les musulmans.
Voilà, les musulmans, si vous voulez, les Arabes, au moins, c'est les musulmans. Mais on me disait que les nègres, non, en fait, ce n'est pas un problème, c'est des Français, etc.
Cette semaine, d'ailleurs, permettez-moi de vous interrompre, mais cette semaine j'ai vu que à l'occasion justement de, vous savez, hein, on est 75 ans après, non 80 ans après la bataille de France, hein, 1940, j'ai vu des hommages assez appuyés à des officiers noirs hein, qui ont résisté aux blancs sur des comptes Twitter, comment dirais-je, de figures de la droite française. J'étais assez ému et j'ai vu en fait qu'il y avait là un phénomène général, c'est-à-dire qu'il y avait un éveil général. de gens de très d'horizons très différents qui allaient vers vers la divinité, quoi, vers le nègre. Donc,
Oui, mais notre éveil quant à la révélation mondiale. Hein,
mondiale, oui, mondiale.
Mondiale de la négrolatrie a été en partie orienté par cette
négrophilie,
cette négrophilie pathologique,
oui,
que l'on peut constater au sein de la droite patriotarde, enfin la droite nouvelle, la sphère patriotarde mariniste, qu'on peut voir à droite et à gauche sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook notamment.
Ouais, finalement, il y avait déjà, il y avait un peu comme Jean le Baptiste, il y avait toute une série comme ça d'envoyés de l'éternel qui annonçait l'avenue. Je pense notamment à Monsieur Carteron, hein, qui très clairement était venu.
Nègre lunette, donc.
Tout à fait, venu annoncer donc l'avènement, quoi, hein, et à droite, hein, j'entends.
Oui, et puis de nombreux fidèles, donc. C'est très bien.
C'est œcuménique, hein. Ça rassemble des gens de droite, de gauche. C'est bien. C'est un éveil spirituel. C'est un éveil.
J'ai remarqué qu'il y avait trois types de macaques qui étaient. Alors déjà, il y a le macaque de base en fait. C'est le Carteron, comme tu l'as dit. Le macaque. Apparemment, il est de droite, Carteron. Bon. Et il porte des lunettes.
C'est très mal nommé, hein.
Oui, pas du tout Carteron en fait.
Après, donc, je dirais que le deuxième type de nègre de droite, donc, c'est le nègre qui porte un costume. Voilà, donc on met des nègres avec des costumes, on habille des singes, puis on les fait parler. Et puis, si des fois, par hasard, ils disent des choses un peu intelligentes, donc les Français applaudissent, sont très contents d'avoir des nègres à costard.
Et donc, il y en a un comme ça chez les LR. Comment il s'appelle? Il a failli se faire réémigrer d'ailleurs dans son pays, et puis finalement, il a réussi à avoir un passe-droit. Il s'appelle le Crimi ou. Putain, j'ai oublié son nom.
Ah, putain, merde.
L'ancien des jeunes, c'est ça?
Ouais, Crimi.
Oui, l'ancien président des jeunes.
Ou Criquet, ou un truc comme ça.
Ouais, et puis cette semaine aussi, ils nous ont.
Moi, Grigri, on va l'appeler Grigri.
Ouais, on va l'appeler Grigri, c'est bien. Ils nous ont sursorti des nègres à costard de la 3ème République. Les mecs, on savait même pas ce qu'ils foutaient dans l'Assemblée nationale, mais on leur a mis un costard.
Là, tu fais mention de, comment dirais-je, Couve de Murville.
Oh, je sais pas, ils nous ont sorti quelques nègres comme ça. Mais on sait même pas ce qu'ils foutaient dans l'Assemblée
nationale. Mais je les connais.
Ils étaient sous-secrétaire d'État à la gestion des bananes. Enfin, on n'en sait rien, tu vois. Et puis aussi, moi, j'ai remarqué surtout le nègre qui porte un uniforme militaire. Alors ça, par contre, comme tu l'as dit, Gandalf, alors là, les Français, ils bandent. Hein.
Les Français de droite.
Sénégalais. Les Français de droite.
Alors, ouais. c'est pas Couve de Murville, c'est un Français. Hein. C'est Gaston Monnerville.
Gaston Monnerville, je confonds un Couve de... Pourquoi j'ai sorti Couve de Murville? Je sais pas. Mais ça ressent, bon, il y a
Ville dedans. C'est un gaulliste, je crois.
Ah oui, donc déjà bien avancé quand même sur la voie du nègre. De Gaulle faisait un peu la fine bouche, enfin bon, il y allait.
Non, hein, De Gaulle n'était pas vraiment...
Il y allait, c'est comme Maurras, il ne croyait pas, mais il disait que quand même...
C'est un mauvais procès, là, pour le coup. Je pense pas que Charles de Gaulle était croyant. On a beaucoup fait... Bon, on peut lui reprocher beaucoup de choses.
Si tu veux, c'est un peu comme Saül, hein, qui est devenu Saint-Paul. C'est-à-dire que c'est un long chemin spirituel, tu vois, vers la conversion. De Gaulle, probablement, au départ, freinait un peu des cas de fer, mais sur la fin, et je dis la fin, c'est 69, hein, la France était déjà très nettement engagée vers l'avènement, hein, de la révélation. Je pense qu'en dépit de tout, c'est-à-dire que voilà, il y a eu un. De Gaulle a connu son chemin de Damas, et probablement l'illumination a eu lieu quand il est mort en Charentaise dans sa petite maison. Je pense que. Et voilà. Mais on ne le saura jamais, hein, c'est dans le secret de son art, évidemment. Alors, messieurs, en tout cas, c'est une émission qui sera spirituelle, je tiens à y insister. Rubrique numéro 1, question des auditeurs. Bonjour, chers démocrates participatifs. Les États-Unis sont au bord d'une guerre raciale et il semblerait que les tensions commencent à traverser l'Atlantique, comme en témoignent les agitations menées par la négresse Traoré. C'est dans ce contexte et suite à vos récents articles que j'ai décidé de vous envoyer ce message. Je me présente brièvement, je suis un blanc de 20 ans et je vis en région parisienne dans une zone où les blancs constituent une minorité. Je ne donnerai pas plus de détails pour des raisons d'anonymat, mais disons que les nègres sont rois là où j'habite. J'ai pu lire dans vos derniers articles que vous vous réjouissiez à l'idée que la guerre raciale débute en France dans les futurs mois ou années. Je vous comprends sincèrement, je comprends votre volonté d'anéantir le statu quo républicain et l'idéal des boomers. Cependant, j'ai quelques remarques et questions. D'abord, vous expliquez dans un de vos articles que les blancs qui vivent dans des coins totalement négrifiés seront les premiers à tomber et que cela est une bonne chose car ces boulets de notre race ne méritent pas de survivre. Je comprends l'idée d'une sélection naturelle par la guerre raciale, mais j'ai quelques réserves. Je reviendrai là-dessus parce qu'il y a un quiproquo, mais...
Ouais, c'est un petit peu...
Je lis... En effet, je crois que ce sont justement les blancs qui sont acquis à notre cause qui vivent dans de tels endroits, tandis que les blancs qui ont passé leur vie entre eux sont de véritables gauchistes. Il n'y a pas plus raciste qu'un blanc de banlieue. Ainsi, si la guerre raciale il y a, je crois que ce seront nos camarades qui en paieront le prix et non les gauchistes blancs. Vous avez bien plus de sympathisants en Île-de-France qu'en Bretagne, vous voyez ce que je veux dire. De plus, la sélection naturelle tue les plus faibles. Peut-on en dire autant des guerres? Ne sont-ce pas les plus forts qui meurent au cours des guerres? Bref, vous l'aurez compris, je n'adhère pas totalement à vos propos sur ce point et j'aimerais donc quelques explications complémentaires. Par ailleurs, vous conseillez aux Blancs de notre cause qui vivent justement dans des endroits négrifiés de se barrer au plus vite. Vous appelez les Blancs qui vous suivent à se barrer des grandes villes. Il s'agit évidemment d'un bon conseil, mais il semblerait que vous ne teniez pas compte de la réalité sociale. Vous ignorez la dimension sociale dans votre analyse. Barrez-vous des grandes villes. Oui, mais avec quel argent? Étant moi-même encore étudiant, je ne suis pas indépendant financièrement et ma famille de classe très moyenne, voire prolétaire, n'a clairement pas les moyens de déménager, ni de trouver un emploi ailleurs. D'où ma question, que faire? Conseillez-vous aux nombreux jeunes qui vous écoutent d'abandonner leurs études? Comment rejoindre la campagne blanche lorsque nous n'en avons pas les moyens? Je suis un jeune blanc prolo qui vit dans un endroit où je ne vois pratiquement plus personne qui me ressemble. Je veux survivre. Que faire? C'est avant tout pour avoir vos conseils que je vous écris. Vous avez toute ma sympathie et mon soutien dans votre combat pour le beau, le vrai et le bien. J'espère que vous prendrez le temps de me répondre. Salutations participatives, un Gaulois isolé. Alors, je tiens à répondre tout de suite à la première partie du courrier en disant, voilà, vous souhaitez l'élimination des Blancs qui vivent dans les grandes villes. Alors, il y a eu probablement... Nous nous sommes probablement mal exprimés. C'est probable. Nous ne souhaitons pas l'éradication des Blancs dans les grandes villes. Ce que nous souhaitons, c'est l'éradication des gauchistes blancs qui vivent dans les métropoles cosmopolites et qui sont heureux de vivre dans des villes cosmopolites de cet ordre et qui voudraient que toute la France, toute l'Europe, tout le monde blanc devienne comme ces grands centres urbains. Voilà. Donc ce sont les fiottes gauchistes urbaines qui posent problème, mais ce ne sont pas les Blancs en général qui survivent dans ces banlieues ethniques qui sont le problème. Je tiens quand même à distinguer ici entre deux catégories, hein, bien sûr. Ça c'est très important à souligner, d'accord. Donc voilà ce que je voulais dire pour commencer. Donc voilà. Non, nous n'appelons pas à l'éradication de tous les Blancs de banlieue, ça va sans dire, hein, bien sûr.
Ouais, si tu permets, précision aussi là-dessus, peut-être que, c'est peut-être moi d'ailleurs qui avais dû lancer une attaque sur certains blancs, alors pas que les bobos pour le coup, mais les blancs qui sont assimilés. Quand je parle des blancs assimilés, c'est pas, ils sont pas assimilés à la France.
Les blancs bouillonisés, c'est ça que tu veux dire.
Voilà, c'est-à-dire que les types qui portent des survêtements Power Rangers avec des casquettes et des sacoches, qui écoutent du rap et qui sont en fait dans leur tête algérienne déjà. Ça effectivement, si ça pouvait disparaître dans un grand feu de joie, ça serait bien en fait. Hein, ça serait ça purifierait, ça serait une mesure tout à fait eugéniste. Hein. Donc oui, voilà, je pense que si on a parlé de ça, c'était de ces cas.
Oui, à aucun moment il y a une totalité. Mais en fait aussi, peut-être ce qui prête à confusion, ce qui peut entraîner la confusion, c'est qu'on parle des fiottes urbaines installées. Évidemment, ouais, quand on parle de pop, de blancs qui sont les blancs issus du prolétariat, qui survivent dans les banlieues ethniques tant bien que mal, évidemment, ces gens-là ne sont pas concernés par ce qu'on dit. Je tiens à le distinguer, quoi. Je parle plus hipster, bobo, voilà, des clients comme ça, si vous voulez, ou des babos, des hippies, des trucs comme ça, vous voyez. Mais à aucun moment, un petit blanc qui essaye de survivre dans sa banlieue n'est visé par ce type de propos, hein, je veux dire.
Ah oui, comme il le dit, au contraire, un blanc qui refuse cette absorption dans le... Dans l'enfer africain, il a une réaction normale, une réaction de survie. Donc oui, il est bien valable pour le coup. Donc oui, l'indifférence. Après, on a dû peut-être parler de fiottes urbaines.
Il suffit de se reporter sur les cartographies des grandes villes lors des votes. Notamment à Paris, c'est un peu caricatural, je veux dire, mais l'Île-de-France, on va dire, même Lyon, etc. Vous regardez les votes dans ces grandes villes, si vous voulez, qu'est-ce que votent les blancs installés dans ces villes, donc les cadres, etc. Ça vote écologiste ou Macron. Il y a quelques petits noyaux de résistance, si vous voulez, bourgeois catholiques, qui vont voter Fillon, voilà, mais c'est isolé. C'est ou écolo ou Macron. Ces gens-là, si vous voulez, c'est ceux qui portent l'idéologie du remplacisme, du cosmopolitisme. Donc ces gens-là, peu importe leur couleur de peau, à l'exception de peut-être quelques miraculés qui arriveront à voir la lumière, on ne sait pas, mais le gros de tous ces gens-là sont des salauds. Ce sont des salauds. Et ce sont des gens pour lesquels je n'ai pas grande estime, ça c'est certain. Donc voilà, donc il faut bien distinguer, hein. C'est très important de distinguer. Voilà, dans ce qu'on a dit. Peut-être que ce qui a été écrit portait peut-être à confusion, mais voilà. Il est important de sauver des blancs dans les grandes villes, c'est tout à fait entendu. S'ils le veulent.
Le but final, on va dire, de cette stratégie, c'est, on va dire, de clairement en fait, distinguer les camps, vous voyez, d'accentuer les idéologies des uns et des autres. Parce que là, à l'heure actuelle, il y a un flou, il y a un statu quo, et moi je suis vraiment convaincu que la juiverie est très heureuse de ce flou, de ce statu quo. Et alors, je suis convaincu aussi que la fameuse guerre raciale dont on parle, elle viendra, qu'on la veuille ou non, ça c'est clair. Et donc, si on peut arriver à séparer bien les camps, c'est ça aussi qui donnera plus de chance. Voilà. Et ça va à l'encontre, en fait, de tout un tas de gens qui estiment que, finalement, la juiverie pousserait à la guerre raciale. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas du tout le cas. La juiverie aimerait bien, justement, que le statu quo perdure, parce que finalement... le temps joue pas en notre faveur. Voilà.
Alors, donc, il y a un point sur lequel il insiste, où il dit, par définition, les Blancs qui sont dans les banlieues ethniques, enfin, les derniers, quoi, hein, les derniers des Mohicans, en quelque sorte, ont une conscience raciale très développée, à la différence de régions intégralement blanches comme la Bretagne, ce en quoi il a parfaitement raison. Voilà. Quand il n'y a pas de nègres autour de soi, évidemment, la question raciale n'en est pas une, par définition, donc il a raison. Je crois que la vocation, justement, des Blancs qui viennent de ces zones, c'est justement de servir d'avant-garde dans les zones blanches. C'est d'aller dans ces zones, évangéliser, vous me permettrez cette expression, fort de leur expérience. Parce qu'ils pourront d'ailleurs fermer le clapet d'un certain nombre de personnes qui peuvent leur dire, écoute, moi, je viens d'une banlieue d'Île-de-France, c'est pas toi qui vas m'apprendre ce que c'est la diversité ethnique et raciale, d'accord ? Moi, j'ai grandi là-dedans, je les connais, toi, où, quoi ? T'es né où ? Plougonblin, c'est où ? Vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense qu'ils ont un rôle à jouer.
Bien sûr, oui, ils ont de plus en plus un rôle à jouer. Là, on a eu le confinement, le télétravail qui a été pas mal développé du coup, pendant plusieurs mois, et qui apparemment serait appelé à perdurer, en tout cas pour partie. Donc, c'est-à-dire qu'on a des gens qui vont se barrer de l'enfer nègre, hein, de toutes les grosses métropoles françaises, et qui vont aller dans la ruralité, qui en réalité peut être plutôt puceau du réel, on va dire, hein. Par exemple, la Bretagne, Bon,
ou le marais Pointe-Vin, dont on a entendu beaucoup de bien.
Ouais, voilà. Donc, non, mais ils peuvent aller là-bas et effectivement servir de relais pour dire non, mais les gars, oui, non, mais c'est très bien, c'est gentil, vos nègres, etc. Mais ça, moi, je me suis barré parce que c'est pas possible. Hein, c'est pas possible d'élever une famille, que quand tes gosses ils sont dans la rue, ils rentrent chez toi, ils risquent de se faire égorger. Parce qu'ils n'ont pas regardé comme il faut. Parce qu'ils ont regardé l'heure et ça allait pas à Mohamed qui était en face. Donc, il faut profiter de ça. Si vous êtes dans des boulots où vous avez possibilité de faire du télétravail et de vous barrer de l'enfer, barrez-vous. Il n'y a pas de problème. C'est super. Profitez. Vous prenez le cash. Vous serez plus tranquille. Si vous êtes dans cette optique-là, faites-le. D'autres n'ont peut-être pas la possibilité de le faire. Après, ça va dépendre de vos capacités, du secteur dans lequel vous êtes. Je sais pas, que faire.
C'est un petit peu la deuxième partie du courrier de notre auditeur. Il dit vous dites, c'est bien gentil de partir dans les campagnes. Alors, quand on dit campagne, il y a campagne et campagne. Il faut comprendre que les options sont quand même très larges. La France est très grande, contrairement... Il y a une illusion d'optique, hein, c'est... On regarde les faits divers, etc., ou si on reste dans les grandes villes, on a l'impression que
la totale... du vide.
Oui, non, il y a beaucoup d'espace en France, c'est beaucoup plus hétérogène qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que le remplacement racial n'est pas aussi homogène, même si, bien évidemment, il a lieu aussi dans des petits villages, ça c'est tout à fait entendu. Mais il dit, il a raison de poser la question, il dit, vous dites, partez à la campagne, etc., mais comment on fait? Comment on fait? Moi, je suis... Il dit, j'ai 20 ans, je suis chez mes parents, est-ce que vous nous dites de quitter nos études, etc., pour se barrer,
Surtout pas. Pour ma part, je sais pas dans quelle étude il est, déjà, sera notre ami, mais si tu fais des études dans lesquelles tu peux avoir un boulot ou tu peux faire du fric, vas-y, quoi. Si tu veux fonder une famille avec une femme qui en vaille la peine, si t'as pas de fric, t'auras rien, quoi, hein. Tu auras une main devant, une main derrière. Donc continue tes études. En tout cas, si tes études mènent sur quelque chose où tu peux faire du fric, si après tu as des formations aussi, des métiers manuels, on a eu déjà pas mal de courriers là-dessus.
Oui, mais il y a des métiers manuels qui sont porteurs.
Qui payent. T'as rien, des métiers manuels qui payent aussi. Donc, tout va dépendre. Si tu fais des études de sociologie, peut-être que... c'est pas... Surtout, tu vas te faire niquer. Tu verras, hein. Si tu fais de la socio dans une fac, on va te remarquer et on va te niquer. C'est clair. Tu vas pas pouvoir... En plusieurs années passées à côté, donc fais autre chose. Fais du fric, c'est tout ce que je peux te conseiller.
Alors, moi, ce que je dirais, c'est. Ouais, Alexis, vas-y.
Une petite chose, oui, tout dépend évidemment de la nature des études, savoir si c'est porteur ou pas. Et puis, mais le fric, oui, il ne faut pas en être ennemi, hein, parce que parfois on entend dire, quand même, les riches, c'est des salauds. Non, il faut certainement pas, parmi les riches, c'est des salauds, mais il n'y en a aussi pas, évidemment, parmi les pauvres. Donc, par contre, oui, une situation intéressante sur le plan professionnel, c'est de la liberté gagnée, en réalité. Quoi. Donc, c'est la liberté aussi, peut-être après, de s'installer là où bon lui semblera.
Tout à fait, c'est ce que je pense aussi. Donc, non, il ne faut pas du tout quitter vos études pour vous précipiter à la campagne. La fleur au fusil, c'est pas du tout ce qui est dit. Au contraire, il faut une stratégie. Il faut une stratégie et plus vous aurez de bagages, en formation, que ce soit une formation professionnelle ou universitaire ou apparentée, mieux ça vaudra. Parce que plus vous êtes élevé dans la hiérarchie sociale, mieux ça vaudra. Plus justement vous pourrez vous aménager un espace à vous. Donc, pas de précipitation quand on a 20 ans, sauf si, je sais pas, je dis ça comme ça, sauf si on a envie de s'engager dans l'armée ou quoi. Enfin, on a comme ça une idée très très claire de ce qu'on veut faire et qui est une rupture. Si on ne sait pas, non, il n'y a pas de précipitation. Il ne faut pas précipiter à 20 ans. La vie, c'est à la fois court et à la fois long. Hein, donc, il faut pas se planter sur sa vingtaine, ça c'est sûr. Donc ce jeune homme, moi ce que je lui dis qu'il faut qu'il continue ses études. J'espère que ses études sont plutôt porteuses. De toute façon, à 20 ans, on peut toujours se réorienter, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais il faut qu'il ait en tête un plan. Il faut qu'il ait en tête un plan. J'entends par là, il faut qu'il ait d'abord identifié le métier qu'il veut exercer. Ça, c'est important. Il faut qu'il arrive à se dire, voilà, c'est à peu près dans cette branche-là que je veux être, et je veux me donner les moyens d'y travailler, et donc, voilà, de faire les études et les formations nécessaires pour y parvenir. Ensuite, et je pense que ça aura fait partie du processus de recherche, il saura vers où aller géographiquement pour exercer son métier. C'est-à-dire qu'il aura déjà réfléchi, tiens, les opportunités se trouvent ici, plutôt là, etc. Alors, comme on ne sait pas sa formation, on ne peut pas trop dire, bien sûr, mais non, il faut un plan, ça on l'a souvent dit, il faut un plan, il faut réfléchir, il faut bien choisir sa région, il faut aussi se poser la question, voilà, qu'est-ce que j'aime ? Est-ce que j'aime la montagne ? Est-ce que j'aime les forêts ? Est-ce que j'aime le bocage ? Est-ce que j'aime la mer ? Est-ce que j'aime le nord ? Est-ce que j'aime plutôt le sud ? Est-ce que j'ai envie de voisiner avec un pays ? Est-ce que j'ai envie d'être proche de l'Italie ? Est-ce que j'ai envie d'être proche de l'Allemagne ? De l'Espagne ? Bah bon, voilà, il faut se poser toutes ces questions-là, vous voyez ? Et en fonction de ce qui nous plaît, quoi. Et ensuite, il faut se donner les moyens. Mais clairement, par contre, et ça c'est clair, hein, je dis vraiment aux Blancs qui nous écoutent, ne restez pas vivre un calvaire comme une minorité en réserve. Ça ce n'est pas porteur. D'abord, pour vous, nerveusement, ça n'ira pas, vous serez malheureux. Et vous devez chercher votre bonheur personnel, votre épanouissement personnel, donc il ne faut pas rester dans des conditions qui sont objectivement infernales. Voilà, si ça ne marche pas, il ne faut pas insister. Donc quand il y a un obstacle, soit on le franchit, soit on le contourne, mais ça ne sert à rien de rester buté en se disant bah là, je suis né ici, je resterai ici. Il faut être un peu plus flexible quand même, et comme je dis, la France c'est grand. Donc il y a des alternatives. Il y a des alternatives, mais
Gandalf. Gandalf, si je puis me permettre, bon, il faut bien se rendre compte que la France, comme tu le dis si bien, c'est grand, et qu'il y a dans la France profonde, il y a encore des villages où les gens ne sont pas complètement lobotomisés par le système. Oui, alors bon, à eux de prospecter, de se trouver des endroits, c'est facile, il suffit simplement d'arriver au café du village un vendredi soir et d'écouter ce qui se raconte. C'est même pas nécessairement obligatoire de rentrer en contact et de discuter. À partir du moment où on entend les gens, on voit directement si on a affaire à des bobos ou des futurs bobos, ou si manifestement on a affaire à des gens normaux qui ont la tête sur les épaules et les pieds sur terre. C'est des villages comme ça qu'il faut chercher. C'est des villages de la vraie France profonde, de gens qui ont parfaitement compris que les médias, la TV, la radio, c'est une vaste blague, ça ne sert absolument à rien, parce que dans ces villages-là, même en faisant des manifestations, même en imposant des bougnoules et des nègres, ils pourraient arriver à changer les mentalités, mais ça prendra combien de temps ? 20 ans ? Ça ne va pas se faire en trois coups de cuillère à peau. Et c'est vers ça qu'il faut aller.
Tu as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. On a fait un tour d'horizon dans cette émission d'un certain nombre d'endroits qui étaient tout à fait accueillants, de gens qui y vivent, hein, et qui nous l'expliquaient. Moi, je me rappelle très bien, hein, sur la région, justement, atlantique, là, près du Pays Basque. Il y avait aussi, comme le marais Pointe-Vin, la Vendée, où l'économie marche plutôt bien. Bon, voilà, il y a toute une série d'endroits comme ça où il y a vraiment des possibilités d'installation.
Un truc tout con, c'est le marché dominical. Hein. Tu traînes sur un marché dominical, en 10 minutes, tu as fait le tour. Tu vois très bien si les gens du coin sont compatibles ou pas. Hein.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais voilà, mais enfin, moi je vous le dis vraiment, j'insiste. Hein, je connais des collègues, je connais enfin, une personne notamment. Lui, il a fait son alia. Hein, je veux dire, je vais pas dire de quelle région il était originaire. Mais il a fait son alia, c'est-à-dire qu'il n'était pas né dans cette région, ses parents étaient originaires de par leurs parents, donc en fait ça remontait aux grands-parents d'une certaine région. Les personnes en question, je vous dis, ils étaient vraiment dans des bleds, mais parmi les pires bleds d'Île-de-France, hein, c'est parmi les pires, hein, des coupes-gorges. Hein. Et les gars ont dit non, c'est bon, j'arrête, Voilà, ils ont. Mais vraiment, hein, ils... bon, je stoppe. Je stoppe l'enfer, là, j'arrête. Je retourne. Ah, ils se sont installés, ils ont pris leur nana, ils sont partis. Alors, soit qu'ils en ont, soit qu'ils n'en ont pas. Le collègue en question en avait une. Il est parti s'installer, il s'est posé, il a pris son appartement. Et tout de suite, évidemment, le prix de l'immobilier, rien à voir. Il a trouvé un job. Voilà, enfin, il y a des possibilités, attention. Il faut pas non plus broyer du noir à 100%. Hein. Je dis pas que ce sera forcément le paradis, mais ça sera beaucoup mieux que si vous êtes dans une banlieue d'une grande métropole. À vous taper, je veux dire, vous prenez un bus, il y a que des négresses, et bon, au bout d'un moment, c'est aussi du visuel. Moi, j'ai toujours dit, hein, je veux dire, croiser une négresse dans la rue le matin, c'est une agression spirituelle. C'est une agression spirituelle, ça vous bousille la journée. Vous en rendez même pas compte, parce que vous en voyez tellement, vous en rendez pas compte, mais en fait, vous ne voyez pas de gens qui vous ressemblent, et vous le vivez très très mal. Et alors, au bout d'un moment, comment dirais-je, vous refoulez cette frustration, vous pensez vous adapter, non, vous adaptez pas du tout. Par contre, vous êtes constamment déprimé, constamment tendu, voilà, il y a jamais rien qui va, etc. Vous savez pas trop exactement pourquoi. Si, vous vivez dans un endroit de merde. Donc, il faut pas insister, quoi. Les gens qui restent à Paris, ou dans des villes comme ça, c'est des gens, ils ont, et qui s'éclatent, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent s'éviter des tas de problèmes. D'accord? Dont les bobos, les mecs comme Kassovitz, là, le juif Kassovitz, voilà, le mec, il aime pas les flics, etc., mais il vit où, celui-là, je veux dire, faut être sérieux, quoi, je veux dire, c'est des mecs qui vivent dans des apparts pas possibles, dans des quartiers de bourges, voilà, donc les mecs, ils aiment pas les flics, mais c'est, voilà.
Des bobos de gauche, ou pour le coup, des vrais bourgeois, des bourgeois
oui,
de
oui,
droite,
tout à fait.
Je vais pas détailler, mais oui, je vois un petit peu de...
Voilà, donc
qui peuvent très bien vivre sur Paris. Hein.
Tout à fait, tout à fait.
Très bien.
Bah, je comprends. Hein, je veux dire, vous pouvez faire un petit peu votre petit univers Amélie Poulain là, si vous êtes pété d'argent et que voir de la pub LGBT vous dérange pas, etc. Bah oui, non, mais pour vous c'est génial. Mais pour les gens lucides, normaux, pour les blancs lucides et normaux, c'est pas ça qui les attend. Donc moi je dis, sauf à être maso, quoi, hein, n'insistez pas. Surtout si vous êtes jeune, mais par contre, ne partez pas dans la précipitation. Vous n'êtes pas à un an près, vous n'êtes pas à deux ans près. Finissez bien vos études. Mettez toutes les cartes de votre côté. C'est ça que je voulais dire. C'est important de le souligner quand même parce que y a quand même beaucoup de jeunes qui nous écoutent, doivent se poser des questions. Non, il faut jamais bâcler ses études. Enfin, vraiment, c'est votre carte pour la suite.
Oui, les études, c'est une chose. Il y a aussi, quand on est jeune, on n'y pense pas toujours, parce que si vous habitez chez des parents qui sont de classe moyenne, qui ont de quoi vous donner un peu d'argent de poche, pensez pas forcément au petit boulot, mais en plus de l'argent que ça peut vous rapporter, c'est aussi quelque chose à mettre sur votre CV, et vous êtes aussi, à la fin des études, jugé en partie là-dessus, tout autant que sur votre diplôme, voire davantage. Après, ça dépend évidemment des diplômes. Il faut donner l'image de quelqu'un qui est dynamique et qui veut s'insérer. Après, sur les grandes métropoles, alors évidemment, je suis pas quelqu'un qui va faire l'apologie de l'état actuel de Paris et compagnie, hein. Je vais pas du tout dire ça, mais les choses sont, il y a quand même un avantage, c'est que les choses sont ainsi faites que autour de Paris, vous avez quand même la possibilité d'habiter à 1 heure de Paris, par exemple, dans des endroits qui peuvent être encore assez potables, et comment dire, prendre le train. Notamment et pour via les abonnements éventuellement aller sur la capitale ou sur une Lyon etc pour y travailler sans y habiter. Vous pouvez distinguer, si c'est possible, c'est pas toujours possible bien sûr, mais distinguer l'endroit où vous habitez de l'endroit où vous travaillez et y trouver une opportunité comme cela.
Un auditeur fidèle qui nous suit depuis des années, qui se reconnaîtra, qui écoute souvent l'émission lors de son travail, je peux pas trop détailler, mais qui se passe en Île-de-France, et il fait l'aller-retour avec une région voisine. Il habite dans cette région voisine, et tous les jours, il y a quand même, je crois qu'il y a bien une heure.
Des mecs qui viennent.
Une heure et demie hein, de trajet, hein, mais il se l'impose, parce qu'il s'est mis. Alors pour le coup, il est bien installé, hein, notre auditeur. Et camarade, il est bien installé, il a sa petite maison dans cette région française, enfin, c'est bucolique, c'est très très bien. Hein. mais il s'impose une heure ou un peu plus de transport, et il se retrouve vraiment, je vous assure, il est à l'épicentre de la négraille francilienne, il est vraiment au cœur, hein. Il est pas, c'est pas un petit peu de loin, hein. Donc, mais voilà, c'est un compromis qu'il a réussi à faire, et du coup, alors c'est sûr, c'est un effort, mais du coup, sa famille, son univers à lui, si vous voulez, il est totalement préservé. Totalement préservé. C'est le jour et la nuit, quoi. Bon, il s'impose ça, si vous voulez. Mais c'est peut-être un cas un petit peu... un peu exacerbé. Cas,
hein. Mais... Ouais. Non, mais y a pas... c'est... Bon, je sais pas si c'est ça, mais tu as le TGV Lille-Paris, c'est une heure. Donc, tu as de nombreux travailleurs de Paris-Nord qui habitent près de la gare, du coup. Là où l'immobilier est beaucoup plus accessible, ils ont les salaires donc de Paris et ils ont de l'espace, enfin, c'est beaucoup plus confortable. Après bon, le TGV c'est pas non plus le RERD, donc c'est ça prend non. du temps certes, c'est quand même plus agréable. Après c'est vrai quand il y en a pas un qui passe, c'est pas toutes les 5 minutes, hein, faut pas se louper. Mais tu as ça, tu as aussi d'autres qui vont peut-être habiter en Bourgogne, hein, puis ils ont le pareil, le TGV qui est pas très loin non plus de Paris, Paris Sud.
Normandie.
Ouais, Normandie aussi, donc voilà. Mais ça peut être intéressant. C'est vraiment cas par cas, on peut pas dire
s'il
fait ça, quoi.
Ouais, c'est vrai, dans la région de Lyon aussi, il y a un bon réseau ferroviaire qui relie, par exemple, des régions l'Ain, il faut être à Bourg-en-Bresse, du coup, il faut être proche, ou alors dans le Beaujolais, enfin bon, vous avez plein de. Et pour des prix modiques, vous pouvez arriver dans le centre de Lyon sans avoir à garer votre voiture en plus. Alors évidemment, il faut avoir un boulot, hein. Sinon ça sert à rien, mais ça peut être intéressant.
C'est vrai que c'est important. Rendez-vous compte, par exemple, ce fait de pouvoir s'étendre avec des transports rapides, c'est pas possible partout. Si vous prenez le cas de la Côte d'Azur, par exemple, si vous êtes, je sais pas, sur Cannes, que vous allez travailler à Monaco, c'est pas très loin, hein, ça va être peut-être 70 km, 80 km. Ben vous mettrez autant de temps que pour faire Marseille-Paris, pour faire Lille-Paris en TGV, voire peut-être un petit peu plus longtemps, alors que c'est beaucoup plus près.
C'est vrai, on ne l'a pas dit, mais dans le 93, il y a des parties proches de Paris, mais il y a des parties aussi assez éloignées. Il y a des gens qui mettent 40 minutes, 45 minutes pour atteindre Paris, et donc ça, aller, mais aussi retour. Donc finalement, quelque part, vous serez tout aussi proche en temps, en habitant, tu as parlé de quoi, de Lille, que d'habiter dans le 93. C'est un peu un paradoxe, mais c'est aussi une réalité.
La Picardie aussi, hein. On n'a pas parlé de la
Picardie. La Picardie.
Ouais. Oui. Oui, tout à fait. Non, mais il y a des... Et même en Seine-Saint-Denis, dans les coins, vous avez des coins complètement ruraux, hein, attention. Hein.
Tout à fait.
Et c'est un peu plus nuancé
même
que ça.
Dans des villes, même dans des villes du genre Montreuil, tu as des coins qui sont très bien.
Hein. Au Mali, donc...
Ouais, non, mais tu as des coins à Montreuil où c'est verdoyant, où tu as des pavillonnaires, enfin c'est... Non, c'est...
Mais là, c'est Boboland, justement, c'est ça, hein, c'est les villes gentrifiées, quoi. Hein, c'est les endroits gentrifiés de ce type de ville, quoi. Ouais.
Tout à fait.
Enfin bon, t'as peut-être pas forcément envie de côtoyer des bobos à longueur de journée, moi je sais pas, j'aurais du mal, hein, je le dis en toute sincérité.
Bah, tu les vois pas, hein, c'est comme t'es chez toi.
Je sais pas, hein, il y a des fois des moments dans l'histoire, si tu veux, où tout d'un coup... On t'interdit de sortir chez toi et tous tes voisins vont à la fenêtre pour applaudir. Tu vois. Là, tu commences à les voir un petit peu quand même, tu vois.
Ouais.
Je préfère quand même une bonne maison bien isolée, c'est quand même toujours un peu mieux. Il faut bien le dire, je veux dire. Non, mais c'est vrai, surtout quand on est un petit peu... quand on tend, vous voyez, sous la pression, quand on tend un petit peu à la misanthropie, une maison à soi, bien isolée, avec de l'espace autour, pour mettre la musique avec le volume qu'on veut, voilà, bricoler, ouais, si on a envie de bricoler, voilà, bon.
J'aurais mal fini dans un appartement avec cette histoire de confinement, et ma misanthropie, qui est pour le coup était particulièrement violente.
Ouais.
Ouais, ça,
je pense qu'on n'aura pas tous les chiffres des suicides cette année, par contre. Hein.
Ouais, moi ça aurait pas été dans ce film, mais ça aurait été dans la rubrique fait divers.
Quelqu'un d'autre veut-il préciser quelque chose sur le courrier de notre auditeur?
Oui, il me semble que les grandes villes sont un lieu encore assez intéressant pour y travailler, mais pour les investissements immobiliers, pour acheter, je pense que c'est un mauvais plan. Je pense que l'avenir de la campagne bien située devrait s'améliorer, devrait monter, et les grandes villes, ça devrait baisser, hein, donc ce serait pas un investissement en ce moment.
Ça monte déjà, hein, parce que les vieux qui étaient en ville, qui ne voulaient pas partir parce que la ville, etc., ils allaient tous sous la mer, avec le confinement, ils se sont rendus compte qu'ils vivaient dans des apparts, donc ceux qui sont chers, etc., mais qui vivaient en ville, et puis quand ils ne peuvent pas sortir, ben, ils ne peuvent pas sortir, quoi, ils sont dans leur cage. Donc ils occupent des logements que des mecs qui bossent pour être sur place et pour utiliser à meilleur escient, pour le coup. Et là, tout ce qui est périurbain, la ruralité proche, j'ai cru comprendre qu'ils se jetaient dessus. Donc ces enculés de boomers de merde vont faire augmenter l'immobilier dans ces coins-là.
Bah, ils ont déjà ruiné complètement des endroits magnifiques. En Bretagne, par exemple, enfin, ils ont bousillé les plus beaux endroits. C'est criminel, hein. Il n'y a pas, que la Bretagne, hein, je veux dire, mais ils ont
la Côte d'Azur,
complètement atomisé.
C'est mort, hein.
Ils ont expulsé les autochtones de toutes ces, des plus beaux endroits. On a vu des accès de violence de masse, oui, tout à fait, mais on a vu des accès de violence de masse pour beaucoup moins que ça. Hein. Et ces gens-là, bah, c'est ceux qu'on a vus se ruer sur les côtes à l'annonce du confinement. Vous vous en rappelez de tout ça? On a l'impression que c'était il y a 1000 ans, mais non, c'était il y a 2 mois, 3 mois, il y a 3 mois. Il y a 3 mois, tous ces mecs-là qui avaient leur bicoque, etc. Les mêmes mecs qui vous prêchent le cosmopolitisme matin, midi et soir, hein, c'est les mêmes. Hein. Il n'y a pas un nègre autour de leur résidence secondaire, hein, il n'y en a pas un. Ils vont même sur des îles. Ils vont même sur des îles pour être sûr qu'il n'y a pas un nègre qui approche de leur maison. D'accord? C'est les mêmes qui sont à Paris-Centre, dans les départements de pub, etc., à vous vendre du négro, du bougnoul, de la diversité. C'est... Bon. Eux, ils placent leur bille, hein. Regardez les faire. Hein. Regardez Gérard Miller. Putain, ça, c'était génial, ça. L'autre, il est parti se planquer en Ardèche. Le psychanalyste juif révolutionnaire de la France insoumise, Gérard Miller, il est parti en Ardèche se planquer lors du confinement. Regardez bien où ils foutent leur bicoque, les mecs. Hein? Quand ils ont du temps libre, ils vont, ils restent pas à Paris, ils restent pas dans les grandes villes. Hein? Non, 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 non. Ils ont leur belle résidence, tranquille, isolée, il n'y a que des blancs autour. C'est des sacrés hypocrites, tous ces gens. C'est comme Mélenchon. Mélenchon, il a une résidence secondaire dans la Cambrousse.
C'est le cas de Nicolas Hulot aussi, qui n'est pas Dinard, ou choses comme ça,
ouais,
ou Cancale.
Ouais, bon,
super,
il est
directement sur la plage, etc. Il y a Laurent Ruquier aussi, très proche en Normandie, là, propriété sur la mer.
Oui, il avait, oui, tout à fait. Il a beaucoup investi dans cette propriété, d'ailleurs.
La gauche, donc. Hein.
La gauche progressiste. Non, mais vous voyez, c'est ça qui est scandaleux. C'est-à-dire, ces mecs sont des mecs, c'est la gauche bobo, encocaïnée, des plateaux télé, qui vous vend la diversité, Jamel Debbouze, etc. Mais non, quand les caméras s'éteignent, qu'ils ont, je le dis, 3 jours de congé, ils prennent leur bagnole, direction... La résidence privée, tout ça, c'est du gardiennage, il y a des clébards, des caméras, vous pouvez pas approcher, je veux dire, c'est que des belles bagnoles, c'est que des culs en or qui vont fréquenter ces endroits-là.
Les blancs éduqués qui parlent du vivre ensemble, hein, donc les gens que vous voyez à la télé qui parlent bien, ne vivent pas, ne goûtent pas la médecine qu'ils vous proposent. Ceux que vous voyez qui vivent dedans, et qui sont blancs, ce sont les assimilés, ce sont les mongoliens qui écoutent du rap ou qui en font et qui sont déjà à Babelwed, hein, dans leur tête et dans leurs mœurs. Les Ruquier et autres, eux non, ils sont dans leur petit, ils sont dans leur appartement parisien des beaux quartiers, et le week-end ils vont effectivement en Normandie avec une belle maison, avec vue sur la plage, pour profiter des beaux couchers de soleil qu'on peut avoir sur ces régions-là.
Et dans le cas de Ruquier, pour s'ouvrir les sphincters à défaut des chakras.
Oui.
Avec un peu de poppers quand même, hein, parce que. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour du coup, de notre auditeur. On va passer au.
Une petite chose, une petite chose, Gandalf, parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'énerve assez, c'est toujours le rapport au pognon. C'est-à-dire que les gens ne font jamais rien parce qu'ils n'ont pas de pognon. La barrière, c'est toujours l'éternel truc, c'est oui, mais j'ai pas le pognon, j'ai pas l'argent, j'ai pas les sous. Faut sortir de ce mode de réflexion. Il y a des gens qui ont construit des entreprises extraordinaires, ils avaient 20 euros en poche. On n'est pas obligé de passer par une banque pour avoir du fric. On n'est pas obligé de s'endetter pendant 3 siècles pour avoir du pognon. Créer quelque chose, c'est avant toute chose avoir du relationnel et de savoir s'en servir. Et il faut bien se rendre compte que si on trouve un petit paradis, un petit village avec des gens qui correspondent plus ou moins à nos modes de réflexion, la première chose qu'on va découvrir, c'est une solidarité qu'on ne trouvera jamais dans les grandes villes ou dans les villes de moyenne importance. Il faut bien se rendre compte que quand on est dans un village, on est dans une famille. C'est-à-dire que personne ne te laissera tomber. Il y a une solidarité qui n'existe plus ailleurs. Et avec ces gens-là, il y a moyen de faire des choses. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ces villages-là, et on le voit très bien avec les gilets jaunes, sont tombés complètement en dessous du contrôle des radars. Parce que c'est tellement insignifiant, c'est tellement petit, que ça n'intéresse plus du tout Paris. Donc là, il y a véritablement moyen de faire des choses. Et comme on va de plus en plus vers un mode de communication qui ne dépendra que d'Internet, parce que les transports vont coûter de plus en plus cher, parce que différentes choses vont devenir de plus en plus compliquées, l'avenir est à celui qui a, et j'en sais quelque chose, sa maison, qui ne dépend des supermarchés que pour des choses qu'on ne peut pas faire ou acheter en brocante ou autre. C'est-à-dire qu'on est dans un système économique où on dépense très peu, et quand on dépense très peu, forcément, on gagne beaucoup. C'est ça l'équation, et c'est à ça qu'il faut arriver. À partir du moment où on est rentré dans ce genre de choses, ben, le monde peut s'écrouler autour de soi, quelque part, on en a strictement rien à foutre.
Merci Diabolix pour cette précision qui était utile. Rubrique numéro 2, courrier des lecteurs, messieurs. Chers camarades démocrates, bonjour à tous. Je souhaite tout d'abord vous remercier de votre travail qui est une sorte de refuge pour moi dans un internet noyé de gauchiasserie en tout genre. Votre émission me permet de rire et de passer du bon temps. Je vous écris depuis le Bourbonnais, ou plutôt comme la République française préfère l'appeler, le département de l'Allier, d'où ma famille est originaire depuis des générations, remontant après études au duc de Bourbon et premier roi capétien. L'endroit où j'ai grandi est préservé, disposant d'une grande propriété dans la campagne bourbonnaise, seules ces merdes de gitans viennent polluer l'endroit. Mais ce n'est pas de cet endroit que je veux vous parler, ce serait bien trop beau. Je souhaite vous parler de mon périple à Clermont-Ferrand, ayant duré quelques mois infernaux. Ayant obtenu mon bac, j'ai été contraint par ma famille à poursuivre mes études dans le supérieur, bien que je n'étais pas dupe de cette connerie qu'est la faculté française. Étant passionné d'histoire, j'ai fait l'erreur de m'inscrire à la faculté de sciences humaines de Clermont-Ferrand. Oui, ça, c'était pas bien avisé, c'est sûr.
Condoléances.
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que Clermont-Ferrand est une ville rouge, socialiste et marxiste jusqu'au bout, véritable reine du centre de la France. Mais sachez que l'endroit est pire que ce que j'ai pu imaginer, malgré le fait que j'étais déjà très bien informé sur l'état de la France. Je ne vous. Comment dire? Ah oui, pardonnez-moi. À mon arrivée, j'ai été accueilli par une ville crade, architecturalement défigurée par la prolifération de cubes à nègres, pardon, de logements sociaux pour populations sensibles. Parfois même en plein centre-ville où des bâtiments historiques sont rasés pour construire des appartements cubiques en béton. Je vais commencer par ma première impression, le quartier de la gare. Une véritable horreur. Je vous invite tout d'abord à chercher des images de la gare de Clermont-Ferrand dont l'architecture semble inspirer des bâtiments soviétiques. Alors j'ai regardé, effectivement, alors là pour le coup, oui, c'est quatre cubes ensemble, hein, c'est en gros. Hein. Alors comble de l'ironie, cette gare est située avenue de l'Union soviétique.
Excellent.
Donc quand on arrive en fait à Clermont-Ferrand, on arrive en Union soviétique en fait. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir officiellement. Il n'y a qu'à Clermont qu'on peut voir ça. Alors non, il n'y a pas qu'à Clermont qu'on peut voir ça. Je serais ravi.
Il y a aussi Brest.
Oui, il y a quelques communes que je connais qui s'enorgueillissent d'avoir ce type de nom d'avenue et de rue. Alors le quartier de la gare est une immondice absolue remplie de kebabs tenus par des blattes turcs et de bars insalubres à crouille, véritable coupe-gorge. Sur le parvis de la gare, un véritable vomi racial constitué de divers nègres, crouilles, racailles s'offrait à moi. Les rares blancs avaient des dégaines d'antifa. La faculté des sciences sociales, où je me suis donc rendu, est un bâtiment tout aussi immonde que la gare. Je vous invite également à en rechercher les images du véritable brutalisme soviétique. Dès que je suis arrivé, une véritable odeur de shit, une odeur immonde de shit et des tags antifa, ACAB, donc ACAB, hein, All Cops Are Bastards, vous aurez traduit de vous-même, et autres m'accueillèrent, une vision surréaliste. Tous les types présents avaient des dégaines de hippies, meufs à cheveux bleus obèses et autres antifas puants. Me rendant aux toilettes, dégueulasse et recouvert de tags, un de ces derniers attira mon attention. Alors là, attention, c'est un trésor. C'est un trésor, je vous assure. Une F égale facho.
Oula.
Il faut encadrer des trucs comme ça. Il faut découper un morceau de mur. Hein. Il faut... Ça, c'est...
Faut prendre savez...
Ah oui, non. Hein. Il faut préserver ça. Comme le mur de Berlin, il faut prendre les morceaux, il faut les garder, attention. En effet, à Clermont-Ferrand, donc, l'UNEF, qui est un genre d'organisation terroriste antifa, en fait, c'est affilié au Parti Socialiste, hein, est considéré comme d'extrême droite. Les autres graffitis étaient les habituels ACAB, marteau fossi et autocollants d'extrême gauche recouvrant les portes. Tout ceci combiné à l'odeur de merde, de pisse et de shit, des chiottes, pas entretenues, qui, et cela donc me donna la gerbe, une horreur. Alors le ton est donné, hein, ça c'est moins qu'on puisse dire. Les premiers cours commencent et un prof en particulier a attiré mon attention. Je vous assure, c'est extraordinaire. Son profil annonçait la couleur, une espèce d'espagnol à la quarantaine. Alors il s'agit d'une femme. Hein. Espagnol à la quarantaine. Cette dernière, nous expliquant les sources d'informations pour nos travaux, décida de nous parler de la presse. J'eus alors le droit à... Alors là, il cite la prof. Premièrement, hein, Le Monde est un journal de droite. Je ne sais plus quel journal a été à éviter, mais il ne faut pas le lire car il soutenait l'Action française en 1930. Lui, il se rappelle plus lequel titre. Mais en gros, la prof leur dit ça. Il dit, faut pas lire ça. Dans les années 30, ils soutenaient l'Action française. Donc, attention. Prescription, c'est un siècle là-bas, visiblement, d'accord. Libération est un excellent journal, neutre, à utiliser pour vos recherches.
La blague.
Ah non, mais justement, c'est pas une blague. C'est du premier degré. Hein. Tout ce qu'il vient de dire, c'est du
donc
premier
degré. Donc là, on est effectivement dans le...
C'est un soviète. Bref, vous voyez la couleur, cette rouge débitant sa merde me rendait fou et j'avais déjà envie de tout plaquer dans cette ambiance dystopique. Alors je précise que notre ami vient d'une famille de droite dure. Oui, je précise. Voilà. Donc
Une famille de Français, donc, hein, de droite dure.
Une famille de Français, normal. Voilà.
Et donc là, il arrive, il est confronté à l'Espagne, quoi, l'Espagne rouge. C'est dur. Hein,
mais excusez-moi les gars, mais à relire ce texte et en voyant ce que pense ce merveilleux professeur, je suis en train de me dire que quelque part, je trouve que la Pravda est un journal d'extrême droite absolument odieux.
Ah oui, c'est possible. Je pense que...
Les Investia aussi, d'ailleurs.
Non, mais c'est cette rouge-là qui est probablement... probablement une trotskiste, doit penser que la Pravda est un journal d'extrême droite.
Enfin, oui, contre-révolutionnaire, très exactement.
Ouais, contre-révolutionnaire. C'est fort possible. Enfin,
Oui, il y a de réelles chances.
Ces Espagnols rouges sont une race qui est proche du juif, quoi. C'est vraiment sale. C'est sale à en vomir.
Mais l'intérêt de la chose, et on n'aborde jamais ce problème-là, il faudrait d'ailleurs un de ces jours qu'on ouvre une rubrique sur le site, c'est d'arriver à voir le parcours professionnel de ces enseignants. C'est-à-dire d'où ils sont partis pour arriver là où ils sont en train de diffuser leurs conneries. Ça doit être assez passionnant.
Souvent, avoir sa carte OPS peut aider, hein.
Voilà, mais le principe du prof, c'est qu'il était à l'école. Il était à l'école et puis il est allé à l'école et puis il est resté à l'école.
C'est ça, ouais, c'est ça.
Et puis il fera des gosses qu'il enverra à l'école, etc. Quoi.
Alors je précise pour ceux qui auraient peut-être pas observé, nous sommes en Auvergne, hein, je précise quand même. Parce que...
Oui, en Auvergne.
C'est peut-être pas flagrant tout de suite.
Arriba, cœur fidèle.
Arriba, Auvergne.
Voilà.
Bah, alors, après, pour être prof de fac, petite chose, c'est que c'est très, très bien maintenant d'être copain avec le président de l'université, parce que vous êtes choisi par un pôle de gens, mais qui sont eux-mêmes dans la poche souvent du président de l'université. Donc, voilà. Par contre, vous pouvez avoir des gens qui sont docteurs, agrégés, etc., qui ne peuvent pas du tout imaginer avoir accès à l'université parce qu'ils n'ont pas les relations qui sont essentiellement politiques, hein, précisément.
Là, ils ne sont pas communistes, donc ils n'ont pas possibilité d'accéder. Voilà, à ça.
Serais-tu en train de suggérer que l'université est un trou à rats où le copinage prévaut?
C'est pas une suggestion, copinage. C'est un fait.
C'est un fait. Alors, le courrier
je suis choqué.
Alors, ayant l'après-midi libre, je décidai d'aller faire un tour dans cette merveilleuse ville qu'est Clermont-Ferrand. Ce qui m'interpella fut la saleté ambiante, les tags et les étudiants de gauche qui traînaient partout. Quand ce n'étaient pas les étudiants, c'était des boomers aux gueules horribles et aux regards méprisants, l'air de me dire « sale blanc, donne-moi du nègre ». Des kebabs dégueulasses constituaient la majorité des commerces. Il faut savoir que Clermont-Ferrand, ville soviétique, adore bâtir donc des cubas nègres un peu partout. Le centre-ville en est totalement entouré. On peut notamment remarquer le quartier Saint-Jacques et sa magnifique muraille de Chine, un autre chef-d'œuvre brutaliste d'excellent goût que je vous invite à rechercher également sur Google Images. Le quartier est un coupe-gorge. Ayant été contraint de m'y rendre avec un ami, lui aussi droitard, pour se rendre au bâtiment du Crous, situé dans ce trou à rats, j'ai pu constater des hordes de races debout en train de péter les vitres de l'arrêt de tram à coups de barres de fer et de défoncer le distributeur à tickets. Des nègres qui font les nègres, en somme. Des moukers passaient par là également, ainsi que des crouilles à scooter. Encore une fois, une horreur. Le bouquet final fut en rentrant dans mon appartement, la nuit commençant à tomber. En passant devant la gare, encore une fois, le parc, la Jouxtan, était rempli de nègres assis sur les bancs, en train d'hurler, je ne sais quoi, dans une langue n'étant probablement pas le français. Au vu de leur teint, je dirais que ce sont des Soudanais, peut-être des pauvres mineurs de 13 ans fuyant la guerre. Personne n'osait entrer dans ce parc qui était devenu un Mordor, de peur de se faire bouffer par la tribu présente. Là où mon courrier va atteindre son apothéose, c'est quand je vais raconter ce qui m'a fait fuir pour de bon cette fac et cette région. Il y a bien trop de trucs à raconter sur cette ville et sa magnifique faculté, mais c'est surtout celle-ci qui a attiré mon attention. Un lundi matin, quelle fut ma surprise en me rendant à la fac de voir une centaine de tentes qui entouraient le bâtiment et la bibliothèque universitaire. C'est bel et bien ce que vous pouvez deviner. Les étudiants se sont unis pour accueillir les migrants et faire preuve de solidarité en foutant des tentes partout dans l'enceinte de la fac qui était devenue un véritable mini-calais. Des nègres et afghans en tout genre déambulaient, prêts à violer la première étudiante blanche qui passerait là, isolée. Une vision surréaliste. Bien évidemment, personne parmi la direction de la fac et la ville n'a émis la moindre objection au fait que la cour même de la faculté se soit transformée en camp de migrants. Des déchets jonchaient le sol, bien plus que d'habitude. Une horreur. Un camp orque en plein centre-ville. C'était trop. J'ai laissé tomber ces études de merde et je suis rentré dans mon Bourbonnais natal où j'ai lancé mon propre business sur Internet qui me permet de gagner assez bien ma vie, ayant réussi à convaincre ma famille que les études, c'est de la merde. Je suis encore marqué par cette mésaventure d'il y a quelques années. Plus jamais je ne remettrai les pieds dans cette ville de rouge ou dans une faculté française. Si j'écris ce courrier, c'est pour alerter sur le fait que la ville de Clermont-Ferrand est encore pire que ce que mes camarades démocrates en pensent. L'Auvergne est une véritable Bretagne du centre, politiquement parlant. Je tiens également à alerter mes amis démocrates plus jeunes, pour les inviter à éviter à tout prix de s'orienter vers les facultés françaises, notamment de sciences humaines. La qualité de l'éducation, des bâtiments est très médiocre et la population immonde. Une véritable perte de temps. Ces bâtiments sont à raser et leurs professeurs à déporter. Salutations participatives, et c'est signé le duc de Bourbon. Ah bah, c'est intéressant parce que ça fait écho au premier courrier, en fait. Hein. Ça fait écho. Hein.
Ouais,
moi j'ai fait mon trou.
Ouais, ben on disait effectivement que les étudiants de sciences sociales, c'était pas trop ça, quoi. Bon, ben c'est bien, il a réussi à rebondir.
Voilà,
et
oui,
pour le coup, sans les études, à ouvrir son business, ben écoute, bravo, salut. Sincères félicitations pour avoir réussi à te démerder seul, pour le coup. Après, oui, par rapport à cette ville de Clermont et les tentes à nègres mises devant l'université, je crois que nous avions eu un courrier l'université de Nantes où les choses s'étaient passées de la même manière. Hein, c'est-à-dire qu'on avait foutu des nègres devant l'université. Peut-être même qui bloquait l'entrée universitaire.
Ah non, ça c'était à Strasbourg. C'était la fac de droit. C'était la fac de droit. On avait fait une opération témoin, je me rappelle très très bien. Et il y avait des auditeurs alsaciens qui avaient pris les photos du camp de nègres qui était installé à l'entrée de la fac de droit. Mais je veux dire à l'entrée du bâtiment. Pas devant la grille. C'est à l'entrée, ouais, vraiment. Ah oui, non.
C'était
avec les cordes à linge.
C'était des signes annonciateurs de l'arrivée du Messie. Hein.
Tout à fait.
Je crois qu'à Nantes, justement, Derek, peut-être que tu confonds, parce qu'ils ont installé des camps de migrants à l'arrache dans des parcs publics, assez fréquentés.
Ouais.
Ils se sont rendus compte d'une statistique au niveau de la criminologie assez particulière, c'est qu'en fait, les tentes à nègres devenaient aussi des tentes à viol, quoi. C'est-à-dire que, bizarrement, il y avait des viols qui étaient comme ça, commis, tout autour de ce petit parterre de nègres. Voilà. Très bizarre.
C'est une rumeur, ça.
Coïncidence, peut-être.
C'est une rumeur.
Non, ce sont des hystériques qui se faisaient mousser.
Tout à fait, ouais. Ah non, mais je suis... voilà, alors Clermont-Ferrand, oui, je crois que le maire est homosexuel. C'est un maire de gauche et je crois qu'il est homo.
Il est ça explique PD, les tentes.
Non mais enfin récemment, il a défrayé la chronique.
Bien joué, Diolix.
C'est bien joué. Mais comment dirais-je, récemment, il a défrayé la chronique parce qu'il a, je sais pas pourquoi, il est en train de chialer, je ne sais plus quoi. Enfin bon, il a fait tout un serment antifasciste. Enfin c'était Clermont-Ferrand, ville de la résistance. Enfin bon, toutes les villes sont de la résistance de toute façon, excellent là, mais bon. Enfin bon, c'était soviétique quoi. C'était soviétique.
Olivier Bianchi.
Bianchi, ah, en Italie.
Ah, l'Italie rouge.
Ah, putain, quand c'est pas l'Espagne, c'est l'Italie rouge.
Italien antifasciste.
Ah, alerta, hein.
Ouais.
Oh, putain. Mm.
Bah, il y a Clermont, alors c'est connu aussi parce qu'il y a Michelin, l'usine Michelin,
ouais.
Qui avait cherché à développer des, comment dire, un peu comme ça se passe en Suisse, en Autriche, en Allemagne, de prendre des jeunes assez tôt après un apprentissage. Et de les former tout au long de la carrière. Et ça, le maire de l'époque, alors il faudrait faire une recherche, je crois qu'il est mort entre-temps, c'est plus le maire actuel en tout cas, c'était opposé fermement, parce que là, c'était l'entreprise qui devenait formatrice et qui se substitue à l'université si précieuse, hein, ça c'était sans doute un danger absolument à éradiquer.
La menace capitaliste.
Voilà.
Voilà.
Oui, c'est
quand même mieux d'avoir des nègres clandestins avec des tentes, enfin je sais pas.
Voilà, c'est quand même bien que tu évoques ça, c'est-à-dire que des fois on pourrait se dire, oui, bon, l'université française c'est pompeux, ça sert à quelque chose, mais non, en fait ça sert à rien, c'est-à-dire que quand tu as des boîtes qui essaient de faire quelque chose de oui d'avoir enfin oui de créer des compétences en fait de faire comme en Allemagne c'est-à-dire que là en Allemagne les boîtes
ouais forment les mecs quoi
prennent les gamins quoi elles prennent les gamins dès la sortie de l'école du collège quoi. Et puis elles en font des travailleurs des employés ultra qualifiés ou des ingénieurs etc mais non le prof il est là il veut t'inciter. Il veut que tu, dans ta tête, tu sois un zélé promoteur de la négrification de ton pays et de la sodomie. Si tu n'es pas convaincu que c'est par la sodomie et la négrification de la France que le salut adviendra, tu n'as pas compris, tu n'es pas digne de recevoir ton diplôme. Donc c'est
voilà. Oui, c'est un
instinct. Ces gens-là sont des fous. Ce sont des fous dangereux.
Ça m'amène un peu à la Sorbonne. Ça m'amène un peu à la Sorbonne, qui était une faculté de théologie hein, au Moyen-Âge. Ça n'a pas changé, hein, parce que c'est ce que tu veux dire, en gros, hein, que l'université française est restée, en fait, enseigne la théologie. Elle est différente, hein, maintenant elle enseigne la théologie de l'éternel, hein, bien sûr. Mais vous avez vu cette anecdote-là, vous savez, la Sorbonne, un soviet d'étudiant a porté plainte, en tout cas est allé devant la, je ne sais plus quelle juridiction, tribunal administratif, je crois, pour invalider toute note inférieure à 10. Et les juges communistes ont voté pour. Ils ont dit effectivement, c'est inacceptable de tolérer l'existence de notes inférieures à 10. Donc maintenant, à la Sorbonne, on ne peut plus mettre moins que 10. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Ça veut dire que tout le monde a la moyenne d'office, donc vous vous inscrivez au début d'année, si vous avez du... Enfin, voilà, si vous êtes candidat, vous pouvez même faire un doctorat comme ça, vous aurez toujours 10, donc vous aurez votre diplôme, quoi qu'il arrive, voilà. Ça j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est une décision qui a été prise, je crois, il y a deux semaines ou trois semaines. Voilà, la Sorbonne, on ne peut plus vous mettre moins que 10. Voilà,
alors pour une thèse, il ne faut pas avoir 12 minimum, je crois, hein, c'est pas une histoire comme ça.
Oh, ben il y a sûrement...
Ça dépend des mentions, après que tu auras...
Dépend des mentions.
Une procédure, bah, sûrement, être lancée.
Ceux qui ont passé leur bac en 1968 ont eu déjà à l'époque, en raison des événements, leur bac avec beaucoup de facilité. Hein,
oui,
quoi,
oui,
c'est
oui.
La continuation du processus. Ça.
Cette année, c'est
c'était la
mieux.
Seule... Pardon, c'était la seule année d'ailleurs d'études post-bac de Daniel Cohn-Bendit. Il a arrêté après. Il avait fait son boulot.
Ça
il a son diplôme. Ouais.
Puis il a fait une belle carrière.
C'est encore mieux, il n'y a pas de bac. Donc tout le monde l'a, c'est merveilleux. Quoi. C'est encore mieux qu'en 68.
Ça ne l'a pas empêché de devenir eurodéputé et compagnie. Hein.
Ouais, dans deux pays différents, les gars, au choix. Dans
un... Il y a des carrières étonnantes. Hein. Il y a des carrières étonnantes quand même. Alors Clermont-Ferrand, vous êtes preneur ou quoi? La capitale des Arvernes, ça vous parle ou quoi?
Ouais, pas vraiment.
Non?
Je pense que si je peux...
Les volcans, c'est bien, non?
Ouais, non, oui, mais à côté peut-être, il doit y avoir des beaux paysages, mais la vie en elle-même, je pense que si je peux mourir avant d'y mettre les pieds, ben, ça sera très bien.
Mais j'ai une remarque, si vous me permettez.
Oui.
En fait, il y a quand même quelque chose qui est assez gag, c'est-à-dire que depuis les années 60, je parle même pas de mai 68, mais depuis les années 60, et ce, dans toutes les grandes villes ou les villes de moyenne importance, c'est exactement le même cirque. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les zones qui entourent les gares sont devenues des cloaques. Alors qu'en fait, la gare, c'est le moyen de transport d'une des plus grandes franges de la population qui bosse, qui a besoin de ce moyen de transport pour pouvoir circuler, pour aller au taf. Et en fait, toutes ces zones ont été systématiquement sacrifiées aux bougnoules et aux nègres.
Ah, c'est totalement vrai,
ça. T'as la gare du Nord à Paris, t'as la gare de Lyon, t'as la gare de l'Est. C'est affolant de voir... Parce qu'en plus, soyons très clairs, à l'origine, les gares, ce sont des monuments d'architecture qui ont une valeur absolument extraordinaire, et tous les quartiers environnants, ont été mais littéralement sacrifiés à la merde sociale.
Alors,
pas seulement un Diabolix, hein, il y a aussi les toxicos, je tiens à le rappeler.
Et les toxicos, moi, et les putes aussi, les putes africaines. Les putes africaines aussi.
Ouais, ouais.
Ça me fend le cœur quand je passe à par exemple, à la gare de Metz. Vous tapez sur Internet, elle est magnifique.
Ah, elle est belle. Ouais.
Très, très belle. Et c'est rempli de toxicos tout autour, quoi.
Elle est construite par le Second Reich, d'ailleurs, je tiens à le souligner.
On reconnaît le style, effectivement.
Un petit clin d'œil.
C'est d'autant plus vrai que ce n'est pas que dans les grandes villes. C'est-à-dire que la moindre. Bon, peut-être pas les villages où il y a des gares qui sont maintenant désertes, mais les villes moyennes à partir de 20-30 000 habitants, autour de la gare, c'est Babelwed.
Ah oui, totalement!
La moindre ville de province, toutes.
C'est absolument vrai, même dans les départements les plus reculés. Même dans les départements les plus reculés, ça c'est absolument vrai. Le quartier de la gare est le quartier du désastre racial. Absolument. Et vous pouvez le mesurer, c'est très simple, vous allez dans les bars, dans les PMU. Oh, ça loupe jamais.
C'est là qu'ils arrivent. Hein,
voilà. Ah non, mais alors la capacité du PMU à drainer du turc, du maghrébin et du nègre, c'est absolument extraordinaire. Je sais. C'est fascinant.
Mais c'est une machine à blanchiment de pognon, le PMU. Faut bien comprendre ça. Hein.
J'ai bien compris. Ah, mais il passe sur ville.
Petite référence sur Clermont, là, il y a Jean-Paul Bourg, qui est un écrivain un peu de nos idées, là, Boue2RE, donc lui, il est originaire de là-bas, de l'Auvergne, et donc il a 70 ans ou plus, donc il a connu Clermont il y a plus de 50 ans, donc il en parle un peu sur YouTube, vous tapez son nom, et puis vous aurez les petites vidéos si vous
êtes. Mais je crois que ça me parle, il est pas un peu néo-païen, un truc comme ça, ça me dit quelque chose.
Ah, beaucoup
oui,
même.
D'accord. Il avait fait un peu du cinéma par rapport à ça, il avait écrit des romans et tout ça, mais sans vouloir faire l'apologie à tout prix de ce type-là, mais sur Clermont précisément, il raconte qu'il y a 50 ans, c'était quand même assez différent la vie dans Clermont-Centre.
Oui, il y avait des Français, c'est ça qu'il veut dire.
Ouais, on pourrait mesurer voilà, France, le progrès entrepris, acquis et atteint entre-temps.
Ouais. Mais même dans les facultés, si tu permets Alexis, je vais vous raconter un fait que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Ah.
À l'époque de la guerre du Vietnam, pas de la guerre du Vietnam d'Indochine française, de la guerre du Vietnam avec les Américains, les communistes de l'Université libre de Bruxelles trouvent une idée extraordinaire de faire venir un Nord-Vietnamien pour plaider la cause du Nord-Vietnam qui veut libérer le Sud. Alors évidemment, autorisation du recteur de l'époque, tout bazar, et dans le grand auditorium de l'ULB, nous avons le gars, l'auditorium est plein, hein, il y a tous les bobos, les 68ards, ça pue le patchouli, enfin je vous explique pas le topo. Et le gars commence à prendre la parole. Sauf que, à l'époque, à l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles, nous avions tous les Sud-Vietnamiens qui faisaient médecine, qui faisaient droit, qui faisaient ingénieur, la fine fleur du Sud-Vietnam. Que font les gars? Ils arrivent sur le haut de l'amphithéâtre. Il commence à déployer des pancartes en disant « on veut pas de ce gars-là, on en a strictement rien à foutre, le Sud-Vietnam c'est à nous, on est chez nous ». Les communistes se retournent en disant « foutez le camp ». Que font les gars? Ils descendent. Donc vous voyez un auditorium, donc c'est des chaises pliables comme au cinéma avec les gens qui sont assis dessus. Ils ont fondu sur le Nord-Vietnamien en marchant sur les épaules des types qui étaient assis sur les chaises. Ils sont arrivés devant l'estrade, ils ont monté l'estrade à une vitesse extraordinaire, ils ont commencé à essayer de choper le gars qui est arrivé à se tirer, protégé par le recteur qui était dans un état de panique absolument total. On a extrait le mec. Sur le coup, les étudiants sud-vietnamiens sont sortis de l'auditorium, sont allés à la procure du Parti communiste qui avait pignon sur rue dans l'université, ils ont pété les vitres, ils ont sorti tous les bouquins de Karl Marx, tous les machins, ils ont foutu le feu au bâtiment, ils ont foutu le feu aux bouquins, et je me rappellerai toujours les pompiers de Bruxelles qui arrivent, les gars ils déroulent les tuyaux, ils se connectent sur les branches à incendie, le type se met juste en face du foyer d'incendie, il actionne sa vanne. Et tu vois un tout petit pipi de flotte qui sort du tuyau, mais il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Le type, il comprend pas. Il se retourne et là, tu vois tous les étudiants vietnamiens qui étaient debout sur le tuyau. Donc, tu n'avais pas la possibilité que la pression d'eau arrive. Arrive la gendarmerie, la police, enfin bref, ça a foutu un bordel, je vous explique pas le truc. Les types, ils prenaient des poubelles enflammées parce que comme le, comment dire, l'avenue est légèrement en pente au sein de l'université, ils prenaient les poubelles, ils y foutaient le feu, ils les laissaient descendre sur les véhicules. À l'époque, c'était des Jeeps Minerva, l'équivalent des Land Rover de la gendarmerie qui montaient, qui se ramassaient les poubelles incendiées sur la gueule. C'était un spectacle assez délirant. On verra malheureusement plus jamais ça dans les universités belges, françaises ou autres, puisque maintenant nos grands copains de gauche ont la main mise sur absolument tout et que c'est la prolifération internationale du nègre. Mais moi, je me rappelle de cette époque qui était quand même beaucoup plus joyeuse.
Ah, c'était plus sympathique.
Après. Ah, c'est intéressant.
Beaucoup
ça.
Plus joyeux.
Ah ouais. Déjà à l'époque, il fallait recruter des sud-vietnamiens pour un peu tenir tête aux communistes. Hein.
Oui, ouais.
Mais sincèrement, les gars, je me rappellerai toujours de la tête de ce pompier qui ouvre la vanne et qui voit mais un petit pipi de rien du tout. Le type, il piche pas, quoi. Il se retourne et t'avais 30 mecs qui étaient tous les pieds sur le tuyau. T'avais rien qui venait. Hein.
Ah non, excellente histoire.
Avant qu'on passe à la suite, ça me revient, parce que je pensais à la prof, l'Espagnol Rouge, qui indiquait que Libération était une source fiable et qui était neutre. Rappelons que Libération a fait la promotion de la pédophilie dans les années 70, donc il y avait des tribunes de Jacques Duguay, qui est un pédophile convaincu, qui... voilà, homosexuel, bien entendu, qui...
Alors moi, je tiens juste à souligner ça.
C'est la promotion, quoi.
Je souligne un truc. C'est-à-dire que moi, à cette rouge, j'aurais dit, mais madame, Libération, vous dites que c'est neutre et tout, c'est un journal de gauche, selon vous. Mais c'est quand même la propriété d'un oligarque bien connu, qui a plusieurs passeports, qui est l'israélien Drahi. Israël n'est pas vraiment un pays très progressiste à l'endroit... de sa minorité arabe, un pays qui occupe aussi des territoires avec des populations, un
État colonial. Qui stérilise des falachas. Hein,
oui, qui stérilise des falachas, c'est très curieux.
Alors madame
Madame, comment dirais-je, la presse du grand capital, qui est liée, intrinsèquement liée à un État raciste et colonialiste, comment se fait-il, madame? Je comprends pas bien. Ah, ça aurait été intéressant de voir les réactions. Alors là, ça aurait été, je pense qu'elle aurait dû. Là, les contorsions, ça aurait été intéressant. Quand même.
Tout à fait. J'aurais joué avec les bouilloux, les nègres là-dessus pour les.
Ah, totalement.
Enfin, il faut y aller, quoi. Il faut militariser le nègre et l'arabe qui sont.
Ah, totalement. Ah, totalement.
Quand tu as ce genre d'individus, pour lui dire attention. Oui, vous avez, c'est la libération.
Intersectionnalité de droite, hein, attention.
Cette professeure-là veut tuer des Arabes et stériliser des Africains.
C'est ça, des falachas, des Noirs.
Elle veut vous tuer. Elle veut vous tuer. Bon,
Complicité du gouvernement français. Le gouvernement français qui accorde énormément d'aide à la presse, hein, bien sûr, que ce soit le journal entre guillemets de droite Le Monde ou entre guillemets neutre Libération, c'est payé par l'État facho. Quoi.
Donc il faut pas hésiter, si vous êtes dans cet enfer-là et que vous pouvez en sortir pour le moment, à utiliser les métèques comme cocktail Molotov contre ces putains de profs de merde. Ah,
Il faut les déclencher.
Vous avez entendu tout de même.
Par exemple, il y a un super truc
Libération,
à faire. C'est quand ils mettent sur le tapis la Shoah. Tout de suite.
L'esclavage.
Attendez, madame, attendez, vous parlez tout le temps de la Shoah et la colonisation. Il faut pas hésiter. Pour les foutre en difficulté systématique, vous allez voir 3-4 Arabes, ils vont commencer à gueuler dans la classe. Ça, c'est sûr, c'est garanti, ça. Ouais, il a raison, pourquoi vous parlez toujours de ce truc-là, là, vous faites tout dérailler, etc.
Bon, les sionistes. Les Palestiniens.
Ça, il faut le faire. Hein. Franchement,
Boubacar qui arrive, nous voulons nos sources, là.
Vraiment, faites-le. Ils sont là.
Ils sont péter le. Il faut, non, mais, il faut en toute occasion, dès que vous pouvez, en plus, pour le coup,
dérailler le train du vivre ensemble, absolument.
Voilà, il faut faire des. Ça ne vous est d'aucune. Ça ne vous apporte aucune espèce de désagrément. Donc vous foutez la merde par proxy, ouais. Et vous avez juste admiré le spectacle.
Tout à fait. Il faut les déclencher, c'est tout.
Il faut le faire. Il faut pas laisser les profs
dérouler leur truc, leur sermon.
Leur sermon du vivre ensemble, etc. etc. Leur diabolisation de la civilisation blanche. Enfin, en gros, ils vont vous construire une figure d'un blanc fantasmé qui n'existe pas, sur lequel les blancs et les nègres, les blancs gauchistes, les nègres et les arabes vont taper dessus. Donc non, si vous pouvez détourner les nègres et les arabes pour qu'ils aillent bouffer les foies de la prof, ouais. Espagnol, d'autant plus, il ne faut, faut pas se priver. Il
ne faut pas s'en priver, non. Bon, j'espère qu'on a donné des idées à des jeunes qui...
On a des auditeurs qui vont avoir envie de s'amuser après cette interview.
J'espère. Donc si vous avez une semaine de la Shoah ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à tout saccager... À coup de colonisation, esclavage, allez-y franchement. La Palestine.
Dès qu'on vous parle de Shoah et compagnie, si vous avez beaucoup de nègres autour de vous, rappelez tout de même. L'esclavage, tout de même, rappelez la colorisation, la forte concentration communautaire.
Ah oui.
Propriétaires de bateaux qui envoyaient des nègres aux Amériques. Donc. Il faut faire des listes, hein. Vous avez des listes.
On citera d'ailleurs.
Pondichéry.
Oh oui, on citera des noms avec avantage, je pense notamment à la famille Mendès de Bordeaux, qui a vendu des noirs. Donc et en précisant bien évidemment aux camarades d'origine africaine, donc la famille Mendès, c'est bien d'origine juive, hein, donc voilà. Et d'ailleurs, qui a des descendants, hein, qui opèrent dans la presse antiraciste, c'est peut-être utile aussi de le préciser. Je pense qu'il y a des nègres.
Descendants terroristes, les terroristes de la famille Mendès.
Donc, dans des descendants d'esclavagistes, hein, faut quand même un petit
des
peu.
Des descendants d'esclavagistes
qui sont des professionnels de l'antiracisme. Il y a vraiment
un nègre, nous
non,
qui
mais,
nous
non,
vous,
mais il y a qu'un yid.
Nous voulons du bien.
Ça, il n'y a qu'un yid qui peut faire ça. Il n'y a qu'un yid.
Oui, bien sûr. Oh. Ah ben, est-ce que le juif, bon, c'est comme le nègre, il ne rougit pas quoi, hein, quand il meurt. Hein.
Ah, oui, il ne subit pas le tribunal de Nuremberg, le juif, ouais, effectivement.
Ouais, c'est ça, ça la race.
Rubrique numéro 3, autisme radical. Alors là, c'est du radical. Alors je vais citer donc un article. J'en ai plus la source d'ailleurs, mais enfin, c'est BFM ou 20 minutes, je ne sais plus. Enfin bon, ça a été communiqué partout, donc c'est pas un secret. Alors je lis, hein. Pour répondre aux mesures sanitaires, le défilé sur les Champs-Élysées sera remplacé par une cérémonie qui rendra hommage aux militaires et aux soignants. La cérémonie militaire, donc le défilé hein, traditionnel hein, du 14 juillet, qui remplacera le défilé du 14 juillet, se déroulera place de la Concorde et comprendra un... Je cite, dispositif resserré ramené à 2000 participants et environ 2500 invités dans le respect des règles de distanciation sociale, a précisé la présidence de la République. La cérémonie qui inclura un défilé aérien mettra à l'honneur la participation de nos armées à la lutte contre le Covid-19 à travers l'opération Résilience. Elle rendra également hommage au personnel soignant que les Français ont applaudi chaque soir durant la période de confinement, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs mobilisés contre le virus, a indiqué l'Élysée. Il n'est pas prévu pour l'instant d'ouvrir l'événement au grand public, mais la situation pourrait être réévaluée d'ici le 14 juillet, si la situation sanitaire est meilleure, explique l'Élysée. Le 13 mai, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron avait souhaité que la fête nationale soit une occasion supplémentaire de manifester l'hommage et la reconnaissance de la nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19, selon le porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Une demande qu'avaient déjà formulée des élus LREM et LR, donc les Républicains, hein, en avril, lorsqu'ils avaient plaidé pour la présence d'un carré de soignants, mais aussi de représentants des héros du quotidien lors de la parade militaire annuelle. Donc les Républicains voulaient des infirmières TikTok sur les Champs-Élysées. Du coup, moi, je préfère la formule de Macron. Hein. Je veux dire, franchement, ça nous épargne des souffrances, quand même.
Je crois que Marine Le Pen aussi souhaitait ça. Hein.
Ah bon ?
Je crois bien, je vais vérifier.
Avec des chats ?
Avec des chats, peut-être, mais en uniforme.
Ah oui, oui, c'est... Oui.
Alors, monsieur... Quelqu'un pourrait m'expliquer la distanciation sociale dans un char Leclerc ?
Bah, il n'y aura pas de défilé, donc il y aura même plus de temps que je... Dans les avions biplaces, je sais pas. J'en ai aucune idée.
Non, mais c'est
idée.
Important. C'est important de respecter la distanciation sociale après la grande danse vaudou qui a lieu à Paris avec le cirque des Traoré. Là, on a vu des milliers de nègres agglutinés. Mais non, nous, pauvres blancs, on va continuer un peu de distanciation sociale.
Oui, dans un mois.
Champs-Élysées. Voilà. Non, mais voilà. Puis on est toujours pas aux fameux 30 000 morts de la grippe de Hong Kong. On n'y arrive toujours pas. Hein.
On stagne. On va y arriver quand même, j'espère.
D'ailleurs, j'ai vu aussi, je squatte un peu les sites qui font les statistiques journalières, par curiosité, et on remarque quand même des bizarreries statistiques où en fait, on arrive à des chiffres négatifs. Voilà, ils rétro-pédalent les types, et ils en ont fait un peu trop, et donc ils corrigent le tir, quoi. Voilà.
Ah, intéressant ça.
Ça, c'est une blague.
Bah, là où on va voir, enfin, on commence déjà à le voir, c'est par rapport à la surmortalité, par rapport à l'année, parce que c'est bien beau les... On te dit c'est des morts du virus ci, des morts du virus là, mais par rapport à une année classique, on va dire, où c'est qu'on en est. Alors, je crois que par rapport à il y a deux ou trois ans où il y avait une grippe un petit peu forte.
On est à 30 000. Ouais, c'est ouais, ça. Il y avait en 2017, il y a eu 20 000 morts de la grippe. Et là, on va arriver à 30 000, donc ça fait, oui, bon, il y a 10 000 de plus.
Ouais,
c'est voilà, cool. Et en sachant que la moyenne d'âge des gens qui meurent, c'est 84-85 ans, je crois. C'est des gens très âgés qui meurent, en général.
Oui, que les jeunes ne sont quasiment pas atteints. Même si
alors, en tout cas, c'est la première fois depuis l'occupation qu'il n'y a pas de défilé militaire français sur les Champs-Élysées. Hein, c'est...
Moi, je suis pas franco-français, saucisson pinard, c'est pas trop mon truc, quoi. Mais enfin, le défilé du 14 juillet, malgré tout, c'est quelque chose que, enfin, je pense comme beaucoup de Français, j'y suis quand même assez attaché. Et ne serait-ce que pour la beauté du défilé, hein, même si on n'est pas républicain, je le suis pas, on peut reconnaître quand même qu'il y a une certaine beauté quand, effectivement, on voit les troupes de la Légion étrangère qui paradent en dernier. Moi, ça me fait quelque chose, quoi. Donc là, enfin, tout ça pour une petite grippette, on enlève ça, moi, ça me fait chier. Je vous dis, clairement, ça me fait chier.
Ouais, mais t'auras quand même les infirmières TikTok place de la Concorde.
Oui, oui, qui sont occupés donc à faire des vidéos TikTok 2 heures par jour.
Il y aura sûrement des
morts inexistants.
Il y aura des chorégraphies, non ?
Ah.
Je pense, non ? Bah si.
Ah ouais, bah oui, ouais, oui, c'est la moindre des choses.
Mais du coup, ça va être le triomphe, alors pas de la volonté, mais ça va être le triomphe des Antilles. Parce que si ces infirmières TikTok, mécaniquement, et puis Macron...
Et il
y
a du zouk, donc.
Macron va insister, il va dire non, je veux du nègre. Hein. Ah oui, je pense, oui.
Non, mais attendez. Si je lis bien ce qui est décrit là-dedans, moi je suis outré. Il n'y aurait rien pour la communauté LGBT.
Ah, c'est une bonne observation, ça.
Eh oui.
Mais c'est un scandale. Il faut nécessairement se plaindre. On n'a pas les folles sur le champ qui défilent.
Ouais, c'est marqué les héros du quotidien. Il n'y a pas les fiottes.
Tous ces gens à poil avec une plume dans le cul. Hein.
Ouais. La Gay Pride, quoi.
Oui, surtout que je crois que cette année, ils ne pourront pas faire le...
La Gay Pride ?
Ouais, c'est pas le mois de... Non, mais oui, c'est, je crois que c'est en même temps que le mondial de la pétanque, il me semble. Et donc c'est annulé, donc ça doit être annulé aussi, quoi.
Donc visiblement, le COVID-19...
En même temps que le mondial de la pétanque, je t'en prie, ne leur donne pas des idées. Hein.
C'est quand même assez bizarre comme concept parce que, comment dirais-je, la Gay Pride, ça consiste quand même à transmettre le sida à son voisin. Mais bon, je sais pas, c'est le Covid serait-il...
C'est trop fier de jouer avec du caca, en fait. C'est
oui. Ah, avec son zizi.
Ouais.
Enfin, quand on en a encore un, parce que certains, effectivement...
Oui, certains le coupent.
Oui, certains le coupent, oui. Mais ils se rajoutent des, comment dirais-je, des nichons
en plastique.
En plastique à la place. Mais ils se mettent aussi des faux vagins. Hein.
Oui, enfin, ils sont...
Ça s'appelle des cicatrices. C'est des cicatrices.
Alors, non, mais juste pour dire, parce qu'ils prennent un morceau de peau Vaginoplastie, c'est intéressant, ça c'est un univers aussi.
Mais en fait,
c'est un peu comme du boudin, c'est un peu comme faire du boudin, c'est un peu pareil.
Non, mais ils prennent la peau du pénis. Hein.
Du zob. Hein.
Donc, la peau du zob, donc ils ouvrent, ils lèvent ce qu'il y a dedans, d'accord.
Ils vident, un peu comme les poissons, ils vident là, vous savez, d'un coup,
voilà.
Ils tirent.
Ils font un trou à l'intérieur, d'accord, dans le corps. Mmh. Ils retournent la peau et puis ils recousent.
C'est ça.
Et en fait, bon, vu que c'est pas normal, ça pourrit. Donc il y a des médicaments absolument délirants pour que ne pas que ça pourrisse trop, mais ça pue quand même. Ça sent le cadavre. Ils le disent eux-mêmes. Ça sent le cadavre dans une pièce, même ils se lavent tout le temps. Ces gens-là puent le cadavre. Ils puent la putréfaction. Ils puent la mort.
Oui, je rajoute, mon cher Derek, c'est une opération, là, la vaginoplastie, qui coûte un peu moins de 10 000 balles, que si tu fais un dossier où t'expliques que, bon, c'est pour les détraqués mentaux, hein, on a compris, hein, mais si t'expliques que t'es pas trop détraqué, bah, en fait, tout est remboursé, hein, 100%, et après, tu prends tout un tas de médicaments à vie, qui, eux aussi, sont remboursés à 100%, donc payés par le contribuable français. Ça fait toujours du bien de le rappeler.
Oui, j'aime bien que tu insistes sur ce point, d'ailleurs.
J'aimerais, si possible, qu'on précise l'orthographe de contribuable. C'est con-tribuable.
Tout à fait. Ouais, je voulais dire un truc, justement, pour en revenir au défilé. L'idée, en fait, de remplacer le défilé militaire par un défilé d'animation culturelle type cérémonie de Verdun où vous savez, vous faites courir des nègres en jogging sur les tombes des poilus, c'était une idée d'Eva Joly, hein. C'est Eva Joly qui avait suggéré ça il y a un certain nombre d'années, donc vous savez, c'est une vaginocrate totalement
une femme blanche extrémiste.
Oui, c'est une vaginocrate comme on est norvégienne, totalement hystérique, ancienne magistrate.
Qui s'appelle par les Français.
Oui, totalement hystérique, comment dire, que vont affiliés aux Verts, donc c'est en fait des communistes radicaux.
Oh, affiliés aux Rouges, hein, surtout. Hein.
Ouais, des communistes radicaux, et donc elle avait dit, le défi militaire, c'est militaire, donc céphalocratique, hein, bien sûr, hein, c'est patriarcal, c'est guerrier, c'est pas bien. Il faut un truc inclusif, qui célèbre la société, un truc à la con, quoi. Donc un genre de gay pride, si vous voulez, mais avec un peu plus de monde que juste les fiottes, quoi. Et ça y est, voilà, c'est Macron, il l'a fait. Voilà, c'est bon, il n'y a plus de défilé militaire, on aura des héros du quotidien, alors je sais pas qui c'est, hein, des migrants...
Marie-Thérèse.
Oui, ça c'est inclus, hein. Ça, les infirmières, ça c'est bien noté, mais je dis, il y aura peut-être, des bénévoles, No Border, Cédric Héroux, je sais pas, il y a un truc comme ça, quoi, je pense que ça va prendre cette forme-là, et puis ils vont dire, vous avez vu, finalement, c'est vachement bien, c'était une belle réussite, quand même, pourquoi on garderait pas le principe, vous savez, ils vont essayer de tenter le truc. Les militaires, de toute façon, l'armée étant républicanisée, jusque, bon, les mecs, il y a peut-être quelques anciens, ils vont dire, ah non, mais quand même, ta gueule, on va te virer de la réserve. Retraite anticipée, voilà, sans solde, toi t'es sans solde. Tu vois, à la pique mal, tu sais, à la pique mal. Ah, il a toussé, allez, virez-le. Et puis ils vont dire, bon, d'accord, ok, très bien, on enverra une équipe de brancardiers pour les caméras, et voilà, et puis ça sera tout, quoi. Et sinon, on aura peut-être un concert de rap et tout, mais place de la Concorde. Alors, je trouve intéressant le choix, puisque c'est l'endroit où on a décapité Louis XVI, et comme vous le savez, le défilé du 14 juillet célèbre en fait la fête de la Fédération, mais la fête de la Fédération célébrait en elle-même la prise de la Bastille, qui n'est rien d'autre qu'une révolution, ce qu'on appelle aujourd'hui une révolution de couleur, qui instigé par différentes forces d'argent, Londres, la City, bref, des conjurés de toute nature qui ont coupé la tête, enfin qui ont renversé l'ordre royal et quelques années plus tard couperont la tête du roi, comme vous le savez. Donc c'est quand même une fête profondément insurrectionnelle, démocratique et juive dans l'esprit, franc-maçonne résolument. Et finalement, l'armée dans tout ça était un petit peu en trop et elle retourne à ses origines, je trouve ça beau, et je remercie Emmanuel Macron, qui d'ailleurs, le jour de son intronisation, comme vous savez, hein, le président de la République, s'était précipité au Louvre devant la pyramide. Petit clin d'œil, hein, bien sûr. Je crois qu'il est dans la continuité.
Oui, il y avait eu un autre événement qui était dans la continuité, c'est quand il avait invité Trump un 14 juillet, quand l'armée avait fait une parade sous le rythme de YMCA, donc groupe...
Ah oui, vous vous souvenez de ça? Oh oui. Et YMCA, en plus,
c'était un peu le chaînon manquant, c'était ça. Ouais,
je crois qu'il y avait eu Daft Punk, mais je me souviens...
Daft Punk, je me souviens, YMCA, t'es sûr de ça?
Comment Daft Punk, alors?
Daft Punk.
Bon, ouais,
c'était cringe, effectivement, mais...
Il n'y a pas un moteur qui s'est vautré, lamentablement, d'ailleurs?
Si, un parachutiste aussi, je crois.
Ah, je sais plus, enfin bref.
En tout cas, ça avait suscité l'incompréhension de Donald Trump. Hein. Il était un peu
disons que oui, la chorégraphie était quelque peu... Ouais, c'était bizarre, quoi. C'était très maniéré, on va dire.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Donald Trump s'était encore vu convié, là, pour les commémorations de la victoire de la Première Guerre mondiale de 1918, donc en 2018, au pied de l'Arc de Triomphe. Et là, il a vu une négresse endiablée, en boubou, hurlant dans un micro, vociférant à son endroit. Et là, c'était déjà l'amorce de l'insurrection raciale. Hein. On a bien compris. Et on voyait un Macron qui était très content de son effet. Alors je crois par contre que Trump, depuis, ne veut plus du tout foutre les pieds à Paris. Enfin, je crois qu'il a... Là, ça l'a complètement... je sais pas. On l'a plus revu à Paris, en tout cas. Je pense qu'il a compris qu'il y avait trop rien à y foutre, d'ailleurs.
Ah bah c'est... Oui, c'est...
Enfin, sauf à admirer des négresses gigotées en hurlant...
C'était le 11 novembre 2018, hein, pour les...
Oui. Oui, oui.
Pour les 100 ans de la fin de la guerre. Et ouais, certains s'en rappellent ici. Et il a envoyé cette négresse absolument.
Non, mais c'est pour dire que Macron est un.
C'est un fondamentaliste. Hein.
Non, mais Macron est un habitué des happenings gauchistes. Enfin, je veux dire, il aime ça, quoi. Hein. Il pense que c'est de la transgression. Je sais pas ce qu'il se. Enfin, moi, je trouve pas, mais. C'est très conformiste, mais bon, visiblement. Enfin, du coup, Eva Jolie doit être très contente, parce que ça y est, c'est bon, il est sucré le défilé.
Il y a, dans le même ordre d'idée, il y avait la fête de la musique, je crois que c'était en 2017 pour le coup, peut-être 2018 aussi.
Ah oui, bien sûr.
Oui, c'était en 2018, je pense.
Avec des effets noirs, homosexuels.
Des nègres invertis qui bougeaient
comme des femmes.
Comme des femmes. Avec des travelots à barbe, en fait.
C'est un habitué de ce genre de
trucs. Et le DJ, du coup, je sais pas quel nègre c'était. Il est connu. Ce type. Portait un shirt marqué.
Noir et PD.
Exactement.
Ah, ça m'a marqué, ce truc-là.
Sur le perron de l'Elysée. Non, mais les gens réalisent même pas. Je veux dire, mais...
Et je pense que les auditeurs peuvent mentionner, enfin on est quand même tous d'accord, je pense pas qu'il y ait un seul chroniqueur ici qui soit républicain, on est d'accord, hein. Donc on n'est pas en train de défendre la République. Hein. Donc,
ça nous
choque, quoi.
Non, mais c'est une cérémonie religieuse qui va...
Mais en fait, écoutez, quand on y réfléchit, on en parlera dans la deuxième partie, mais Macron est un précurseur à sa façon.
Macron serait-il Saint Jean-Baptiste
C'est peut-être le Baptiste. En tout cas, peut-être. Ou le Esaïe. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je vous le dis, il y a quelque chose. Alors, mais là, en fait, bon, play sur le phénomène culturel, on voit bien en fait que. Mais toujours le triomphe des valeurs féminines. Hein, on est sur le triomphe des valeurs féminines, c'est-à-dire qu'il faut pas de phallus, il faut pas d'image de force, il faut pas d'ordre, parce que le défilé, vous savez, il est au cordeau, hein, c'est droit, c'est carré. Tout ça doit être complètement effacé, et à la place, on fait de l'animation culturelle, c'est-à-dire qu'on amène la garderie. Alors, les femmes adorent ça, elles adorent. C'est marrant, ça tourne dans tous les sens, c'est le bordel, enfin bon, elles sont contentes, quoi. Ça papillonne, vous voyez, les femmes aiment quand ça papillonne. Et là, on voit, là, ça va être un symbole très fort parce que la place de la Concorde, donc il n'y a pas de dynamique, alors que dans le défilé, il y a une dynamique par définition. C'est un mouvement. Ce sont des hommes en mouvement. Là, ça va être statique. Ça va être statique dans un espace très clairement borné. J'imagine qu'ils vont décorer ça. Il y aura des effets. Il y a des trucs. Ça, je vous assure. ça va être cocasse. Hein. Ça va être ils vont mélanger, ils vont quand même garder deux trois trucs militaires pour dire quand même ouais non mais ça reste militaire. Genre les avions ils passent, vous voyez, mais ils vont faire genre putain, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils sont foutus de demander à la patrouille de France de dessiner le visage d'une infirmière noire. Dans... Enfin, je sais, mais ils sont foutus de le faire.
Oh, Gandalf leur donne pas des idées, ils vont le faire.
Oui, bah, la présidence peut me contacter, hein, si jamais ils sont à court de concepts. J'en ai quelques-uns. Parce que l'extrême droite a toujours le talent, enfin, surtout ici. Enfin, non, nous, on est quand même très au-delà de l'extrême droite. Quand on peut, faudra qu'on se définisse un de ces quatre. Je pense qu'on en est au cinquième Reich. Mais bon, on voit toujours beaucoup plus loin que les gauchistes. C'est-à-dire qu'on a un temps d'avance sur les gauchistes. On voit où ils vont arriver. Et tandis que l'extrême droite se scandalise de là où arrivent les gauchistes. Vous comprenez ce que je veux dire, hein ?
Oui, c'est ça. Parce qu'avant, c'est Marine Le Pen qui est encore...
Oui, oh, les merdes, bon, bon,
laissez-nous être gaullistes. Laissez-nous, s'il vous plaît. Quelle bande de connards.
À propos d'idées à ne pas leur donner... ils vont faire défiler les services publics. Est-ce que les antifas sont considérés comme un service public pour eux ?
Alors, non, mais comme tu feras défiler des postiers, éventuellement, ça intègre les antifas par obligation. Tu vois, c'est,
voilà. Il y a un tête Besancenot sur les champs.
Tout à fait, en vélo. Non, mais lui, on le fera jamais défiler pour quoi que ce soit. Hein. Enfin, sauf la Révolution, mais sinon... Non. Ah non. Est-ce que vous êtes convaincu par le concept alors d'Emmanuel Macron du nouveau 14 juillet ? Est-ce que ça... Non ?
Oui, en gros, c'est un défilé militaire avec des civils, quoi.
C'est ça. T'as bien résumé, ouais.
Des infirmières. Alors,
voilà, c'est un peu mieux résumé encore, ouais. Et moi, je vais le résumer encore mieux. C'est un défilé militaire avec des infirmières TikTok.
Mais je crois que Fulbert pourra confirmer, mais si mes souvenirs sont bons, chez les Belges, le défilé militaire maintenant, ça inclut les civils. Hein.
Je ne suis plus cette mascarade depuis très longtemps.
Parfaitement bien dit. Parfaitement bien dit. Absolument. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Moi, je demande à voir, hein, je suis bon public. Hein. Moi, je suis bon public. On a vu Hollande faire courir des gamins sur, enfin, des négros sur les tombes des poilus en rigolant.
Alors, quand tu parles
c'était
d'Hollande,
c'était Zimet, voilà. Je te l'accorde. C'est-à-dire que le metteur en scène de cette affaire était le socialiste juif Zimet, dont le père enseigne...
Le chanteur du yiddish.
Et enseigne le chant yiddish au Sénégal, c'est important de le dire, et qu'il est l'heureux époux de Rahmatoulaye Wade. Non, Rahmatoulaye
Wade.
Yad, Wade. Je confonds avec l'ancien président, le vieux Sachem.
Le cousin.
Voilà. Et Rahmatoulaye a conçu une créature assez originale qui est donc une moitié yiddish, moitié sénégalaise musulmane. Très curieux.
Ah bon ?
La créature.
Attends la photo. Tiens,
la créature.
En parlant de créature, j'ai vu le rejeton du rouquin, là, le Harry, Express Harry, et puis de Samuel Atresse.
Ah oui, ah, j'ai vu.
C'est parfait. Non, mais
il a
oh une, là là, le gobelin. Le gobelin.
Le gobelin. C'est un gobelin.
Oh, l'horreur!
Il tire sur le orange.
Non, mais il est orange.
Il est orange. Il est orange.
Orange avec des yeux noirs.
Ouais. Puis il a les oreilles qui tirent un peu derrière. T'as vu? C'est comme si c'était. C'est curieux. Hein. Puis le nez est pâté. Enfin, tu sais, comme si. Il est pâté, quoi.
Oui, bah oui.
Ah, oui.
C'est-à-dire qu'elle a un peu de pognon pour arriver un peu à camoufler, surtout à blanchir son visage avec tout un tas d'artifices.
Ouais, c'est abusé.
Et après, il y a la génétique qui parle, quoi.
C'est-à-dire que Meghan Markle, c'est une mulâtresse. Hein. Donc elle est moitié noire, moitié blanche, comme Obama, on va dire. Bon. Et grâce à la chirurgie esthétique, à Photoshop, etc., elle arrive à se faire passer pour une latina. C'est quand même assez costaud. Je dois quand même... Voilà. Mais elle se fait passer pour une latina. Hein. Le type qu'elle vit, c'est voilà, il faut que j'ai l'air d'une latine. D'une hispanique, d'une sud-américaine, quoi. Voilà. Bon. Alors, c'est bien sur le papier, hein, mais là, ils ont quand même pondu un nègre roux. C'est quand même assez effrayant.
C'est horrible. Hein. Moi, enfin, moi, j'ai vu ce truc-là. Je pensais que la photo était fausse quand j'ai vu le truc.
Mais non, c'est, ah, mais, c'est attends, vrai, hein. Le concept du roux et du nègre en même temps, moi, je vous dis, ça bloque. Hein, suite. C'est satanique hein, comme mélange. Hein. C'est satanique. Hein. C'est satanique. Il y a qu'un prêtre vaudou qui aurait pu concevoir un tel truc. Pour moi, ça relève du vaudou. Ça relève du vaudou. Ça relève du vaudou. Bah d'ailleurs, par contre, ça j'ai fait une prophétie là-dessus. Bah, mais j'en fais beaucoup. T'es pas le seul à faire des prophéties.
Eh oui.
J'ai dit que celui-là fait du rap. Et il s'appellerait DJ. Je me rappelle plus du nom que je lui avais donné. DJ Mac Diamond, un truc comme ça. Mais bon, ça sera un truc comme ça. Et tu vois, ça sera un carteron de nègre totalement shooté. Tu vois, il aura des dents en or. Il aura une espèce un anneau de veau dans le nez. Des gros. Il sera tatoué sur le front. Enfin, ça... Non, mais ça va donner un truc. Ça va être génial. Et non, mais ils sont à Hollywood.
Bah oui, ils sont partis.
Mais c'est garanti. C'est garanti. En plus, l'autre, l'air de rien. L'air de rien. Sa sécurité, elle est garantie par les services secrets britanniques. Ils sont obligés.
Je sais pas.
Ils sont obligés. Pour pas éviter d'embrouilles, pour pas embarrasser encore plus la couronne que ce que c'est le cas. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est que son grand frère, apparemment, ne partage pas du tout son délire. Hein.
Non. Son grand frère est assez... Il est rappelé être roi, hein, pour le coup.
C'est le futur roi, oui. C'est le futur roi.
Il a l'air beaucoup plus intéressant. Enfin, en tout cas, il n'est pas cinglé au point de son frère.
Il n'est pas cinglé au point de se foutre
avec un singe. Et puis, bon, il a probablement foutu dehors, quoi.
Oui, je pense que c'est revenu à ça, ouais, effectivement. Il a foutu toute la clique dehors, ouais, effectivement. Ouais, bon, là, on s'est écarté, mais quelque part, c'est un peu la discussion qui tourne autour entre la monarchie britannique et la République française. Bon. Nous avons la confirmation, hein, les deux c'est bien de la merde en fait. Hein,
Ouais.
Les deux c'est bien de la merde. La République française c'est quand même vraiment bien de la merde.
Ah, c'est pas mal. Ouais.
La couronne britannique, aussi merdique qu'elle soit, ça garde encore un petit côté, vous savez, un petit côté tradition, vous voyez. Bon, ça vaut ce que c'est, ça vaut pas grand chose, mais. Bon, il y a encore un petit truc. Bon, mais ça sent le frelaté en même temps, oui, ça sent le côté péteux. Mais bon, il y a un petit côté. C'est un peu kitsch. Mais par contre, en France, nous, on a vraiment le triomphe du caniveau, quoi. Ça, c'est pas cool, quand même. C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, en fait, les gens peuvent toujours se mentir en disant « Ah, on a quand même la reine », vous voyez. Et en France, tu peux pas dire « Ah ouais, mais on a quand même... » Bah non, t'as Macron. Tu vois, y a pas d'échappatoire. en Belgique, vous avez un roi. Bon, je sais pas ce qu'il
non,
vaut.
Non, on n'a pas de roi en Belgique. En Belgique, il y a un type qui fréquente les instituts de beauté, les saunas et les spas, c'est tout.
Ouais, non, c'est... Non, t'es pas con... la royauté belge non plus, ça te dignette, quoi.
Alors, en Norvège, il y a quelque chose de pas mal aussi.
Les deux Saxe-Cobourg, c'est une farce, hein. Faut bien se rendre compte que la seule chose que les deux Saxe-Cobourg sont arrivés à réussir dans toute leur famille, c'est d'épouser une reine de Grande-Bretagne, et encore, ça a pas duré longtemps, le type, il a fini par clamser. Mais bon... Se retrouver roi des Belges, c'est quoi la Belgique? La Belgique, c'est un non-État, c'est un espèce de cloaque absolument fabuleux dans lequel tu as des générations de moutons qui sont des bénis oui-oui d'une classe politique de merde qui les exploite. T'as plus rien à foutre là-dedans, plus rien, c'est mort.
Merde. Ah ouais. Merde.
La seule solution qui pourrait... résoudre le problème belge, ça se résume par chaleur et lumière. Enfin non, lumière et chaleur.
Lumière, je te... Enfin bon, là on est à l'intersection de toute une série de traditions, hein, n'est-ce pas? 14 juillet, monarchie britannique, royauté belge, bon, chaque nation a sa tradition, mais... Ouais, aucune d'elles n'a l'air très concluante.
Tu as la princesse de Norvège aussi, hein, qui est pas mal. Hein.
Ah,
c'est
pas mieux
qu'un nègre.
Bah si, non, mieux.
Un chaman nègre.
Un chaman. Et c'est la fille du roi de Norvège, hein, c'est ça. Hein.
Je crois.
Ouais, la fille du roi de Norvège, ouais. Elle se fait bourriquer par un chaman nègre américain.
Chaman nègre, et elle était. Alors, elle s'est plainte cette semaine du racisme.
Oui, voilà, oui, c'est ça. Voilà.
Et elle s'était barrée avec donc l'argent du contribuable, bien entendu, norvégien, aux États-Unis avant le confinement, avant que en tout cas, avant que Trump ferme la boutique.
Pour se faire bourriquer par son nègre.
Pour se faire bourriquer, effectivement, par son singe. Hein.
De compagnie, effectivement.
Donc oui, comment dire, le fétichisme royaliste dont font preuve certains à la droite française, bon, non.
Non. Effectivement. Messieurs,
tant qu'on y est à faire le tour, Gandalf, n'oublie pas que le grand-duc de Luxembourg actuel... Ouais. Si mes souvenirs sont bons, est marié à une Argentine. Hein. Il faudrait que je vérifie pour être sûr, mais je crois qu'il est marié à une Argentine.
Et alors
c'est le premier ministre qui est pédé, je crois. C'est le premier ministre.
Ah, pardon.
Et alors, c'est quoi le problème, le fait qu'il soit marié en Argentine? Explique-moi.
Ben, les Argentines, c'est un mix un petit peu dans le même style que les Cubains.
Non, mais... Il faut bien préciser qui, parce que tu as des gens de souche allemande en Argentine, si tu veux, ils sont...
Oui, c'est trop générique. Il est bien clair que c'est pas d'eux que je parle. Non, ouais. Il est allé se trouver une petite Argentine un peu boulotte, avec un QI de grosso modo celui d'une huître, et bon, bah, ça a été le coup de foudre, le grand amour, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et ça va nous faire des petits, on va les mettre dans des bocaux avec du formol autour, on va les regarder dans les musées, ça va être très sympa.
Ah ouais, donc il y a un truc comme ça aussi au Liechtenstein.
Oui, au Liechtenstein il y a du mulâtre aussi. princier.
La civilisation. Hein,
voilà. Mais il ne faut pas oublier non plus le prince de Monaco.
Oui. Alors, bon, non, mais lui, il a fait ça quand même. Il a eu la courtoisie de ne pas.
Oui, il ne l'a pas mis sur la liste de succession. Enfin, bon,
voilà, exactement.
Ouais. Puis en plus, j'ai regardé la négresse qu'il a bourriquée, la congolaise. Putain, je sais pas. Il avait.
Togolaise.
Je
sais pas.
Alors, mais j'ai vu la créature. Le mec devait être raide bourré. Enfin, c'est pas possible, quoi.
Non, mais il baisse tout ce qui bouge, Albert. C'est un
chaud. Ah ouais?
Ça se voit pas, hein.
Ah ouais, ça se voit pas.
Ah ouais, ça se voit pas, mais c'est un chaud lapin. Hein.
Oh la vache. Bon, je coupe ceci. Enfin, bon, là, quand même. Ah non, là, le mec, il a été fort, quoi. Puis il a transformé l'essai, l'enculé. Il a transformé l'essai. Faut voir la gueule du machin qu'il a pondu. Hein. Il a une gueule de demi-dégénéré. Il a l'air... Non, vous allez me dire, les nègres ont l'air abrutis. Non, mais celui-là, il a l'air particulièrement abruti, quoi. George Floyd, à côté, a l'air d'un intellectuel panafricain, si vous voulez. C'est aberrant.
Je suis en train de voir les photos. Même moi, ça me choque. Non, c'est un...
Ah oui, non, il a, non, il a une vraie tête de...
Il a baisé un singe.
Ah oui, oui, t'as pas vu le fils. T'as pas vu le fils, hein.
Bref. Je suis en train de voir l'orque.
Ah oui, non, mais c'est effrayant. C'est effrayant. Bon, alors, donc là, on a fait le tour des coups.
Oui, mais attention, ça se justifie, parce que quand on est duc et duchesse de Sussex...
Allez, on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Alors, messieurs, discussion de la semaine. Bon, bah, c'est Ray Soliwar, hein, c'est Raoha, on y est. Hein. Donc, on avait commencé déjà à parler de ça la semaine dernière, hein, les événements aux États-Unis suite consécutifs à la mort donc de George Floyd, un noir américain décédé lors d'une interpellation par un policier blanc, mort qui a ensuite été interprétée par la totalité du système hein, médiatique, on va y revenir, et ensuite le commentateur, etc., comme un crime raciste, bon, pas le premier élément de incriminant le policier Derek Chauvin comme raciste, mais c'est pas grave. Et l'affaire a continué toute cette semaine, puisque vous l'avez bien vu, il y a eu de très violentes émeutes raciales dans tous les États-Unis. Elles ont débordé en Europe, et en fait, ces émeutes raciales ont même revêtu un caractère insurrectionnel, on peut le dire. Hein. Il y a eu un caractère insurrectionnel. Alors, au moment où je parle, ces émeutes se sont quand même calmées, parce que dans les villes les plus critiques, il y a quand même eu le déploiement de forces de police et ce qu'on appelle la garde nationale, donc qui sont des militaires placés sous l'autorité des différents gouverneurs qui ont quand même eu un effet. Et puis je pense surtout que les nègres se sont lassés en fait de piller, ils ont pris ce qu'il y avait à prendre, ils ont pris les pompes, les Nike, les PlayStation, donc voilà, une fois que c'était pris, il n'y a pas de raison de revenir. Donc ça c'est le contexte, hein. Donc on va revenir tout en détail là-dessus, mais peut-être le premier point sur lequel je voulais commencer cette discussion, c'est les informations complémentaires que nous avons reçues quant à aux causes de la mort de George Floyd. Donc au départ on ne savait pas exactement, la thèse officielle reprise par tous les médias dominant, hein, c'était que voilà, le policier l'avait étouffé. C'est ça le truc, hein, il l'a étouffé. Donc le flic l'a sciemment étouffé. C'était un meurtre. Bien. On a parlé de l'incrimination la semaine dernière, hein, la qualification des faits par le procureur qui s'occupe de l'affaire et qui est un nègre antifasciste revendiqué d'ailleurs. Et en fait, c'est un homicide involontaire actuellement pour ce qui concerne la partie judiciaire. Mais nous avons des informations complémentaires, comme je le disais. C'était ici par RTL. Alors évidemment, c'est l'interprétation des faits par RTL, mais je les cite quand même. George Floyd est mort par homicide à cause de la pression exercée sur son cou par la police et était drogué au fentanyl, un puissant opiacé, a estimé lundi le médecin légiste officiel en charge de son autopsie. Cet afro-américain de 46 ans a fait un arrêt cardiaque et pulmonaire à cause de son immobilisation par les forces de l'ordre, a détaillé le médecin légiste au comté de Hennepin dans un communiqué. Dans son rapport, il liste d'autres paramètres importants: artériosclérose et hypertension artérielle, intoxication au fentanyl, usage récent d'amphétamine. En plus donc de ce rapport donc d'autopsie cité par RTL, nous avons une dépêche Reuters qui ajoute un élément aussi très important. George Floyd était positif au Covid-19 au moment où il est mort. Donc c'est assez curieux. Nous avons là donc c'est eux qui disent que c'est l'arrestation qui a provoqué la mort, mais en réalité nous avions quelqu'un qui était positif au coronavirus, qui avait des problèmes cardiaques, d'accord, qui était sous fentanyl, donc quelqu'un qui prenait des opiacés, et qui venait...
Il y a les doses. C'est un produit qu'on met dans l'héroïne, c'est pour...
Ouais.
C'est un truc qu'on s'injecte par intraveineuse, pour, et que les dealers foutent ça dans l'héroïne pour te shooter plus.
D'accord. Et... amphétamine. Alors apparemment les doses qu'il avait dans le sang normalement devaient mettre un mec en état de comment dirais-je de pas de coma mais pratiquement d'anesthésie. Les doses étaient anesthésie. Voilà. Bah, le mec était anesthésié en fait. Il était anesthésié en fait.
Oui. Et ce qui s'est oui, sauf que s'il avait une occupance, disons que ça allait un petit peu mieux. Mais ce qui s'est passé, le pourquoi il a été immobilisé là, par le flic...
Oui, il faut expliquer ça
aussi.
C'est
qu'à un moment donné, il titubait, il commençait à faire n'importe quoi, et je crois qu'il s'est écroulé de lui-même d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas sûr sur ce point-là, mais.
Ce qui a attiré l'attention de la police, pour commencer, hein, en plus de son état, c'est qu'il est, il se livrait un trafic de cigarettes avec des faux billets. Et la police intervient et tu dis voilà, toi tu me dis qu'il était déjà dans un état, enfin il était déjà bien allumé par les stupéfiants. Et en fait quand les flics arrivent, en fait ça se trouve les flics seraient pas intervenus, le mec aurait fait une overdose, il serait mort sur le trottoir en fait. Hein. C'est peut-être ce qui serait passé. Hein. On peut pas le déterminer, mais c'est il y a de fortes chances. En tout cas ce qui est sûr, c'est que Derek Chauvin n'a pas tué ce mec-là. C'est-à-dire que ça c'est clair. Bon. Imaginez, non mais le mec, il faut quand même, j'insiste sur ce point, le mec a le coronavirus, il est cardiaque, il est camé jusqu'aux yeux, il est en train de se livrer à un trafic, il y a des policiers qui arrivent pour l'interpeller, l'équipe de police, 4 flics, est multiraciale, il y a un asiatique, il y a un mulâtre, il y a 2 blancs, la presse, c'est incroyable, retourne ça et présente ça comme un meurtre raciste de sang-froid, enfin c'est ahurissant.
Ouais, parce que bon, il y a le spectacle, c'est vrai que c'est la technique en question de foutre le genou sur le cou du nègre, c'est pas top pour le coup. En tout cas, enfin, c'est pas top au niveau de l'image. Mais le nègre devait être. Il devait être fou. Enfin,
alors je précise, pour ceux qui ne le sauraient pas, cette technique...
Plus qu'un nègre habituel. Quoi.
Cette technique, et tout particulièrement dans ce secteur-là, dans le comté en question, mais il y en a d'autres aux États-Unis, cette technique est enseignée à la police américaine par la police israélienne.
C'est toujours bien savoir.
Ah, vous saviez pas? Vous saviez pas?
Non.
Si, c'est...
Floyd...
C'est complètement prouvé.
Floyd aurait-il des origines palestiniennes en plus, hein?
Non, mais les gens ne le savent pas, ça a été voilà, mais vous pouvez chercher, faites des recherches. La police américaine, les unités de police américaine sont régulièrement envoyées, en Israël pour suivre pour suivre des entraînements, des formations spécifiques, au contrôle justement, parce que pour des raisons évidentes, c'est-à-dire qu'Israël, vraiment, eux, ils gèrent constamment une population d'Arabes très remuante avec un risque terroriste, etc. Donc la police israélienne sait comment gérer les types. Donc il y a des accords en fait de coopération et les Américains envoient leurs flics se faire former en Israël, quoi. Je présume que ça dépend des comtés. C'est-à-dire s'il y a des comtés qui sont un peu plus remuants que d'autres, on envoie les mecs en Israël, voilà. Alors comment? Et c'est là qu'on leur a appris parce que la technique du genou sur le cou. La première fois que ça, c'est une création israélienne qui date de 2006 très précisément. Et elle a été utilisée dans les territoires occupés arabes. Justement, c'est là qu'ils ont la police israélienne a mis ça au point et tout. Apparemment, c'est très efficace, quoi. Bon, moi, je suis pas un spécialiste du maintien de l'ordre ou quoi, donc j'en sais rien, ni des arts martiaux. Mais ils ont trouvé ça très efficace. Enfin, en tout cas, ça leur permettait de faire leur boulot. Et les Américains se sont montrés intéressés d'une manière générale par la façon dont les Israéliens procédaient, et ils ont envoyé leurs unités, et notamment de ce secteur-là. Alors, je dis pas que le Derek Chauvin a été en Israël à apprendre ça. Hein. De ce que j'ai lu, c'est pas le cas. Mais c'est pas la peine. Il suffit d'avoir des mecs qui ont été, 2-3 mecs qui ont été en Israël, apprendre 2-3 trucs, des formateurs de la police américaine qui vont là-bas, et des mecs ensuite, ils vont dans des séances de mise à jour. Ils gèrent des séances de mise à jour avec des flics. Ils disent voilà les gars, alors quand vous avez le mec comme ça, truc, machin, vous le prenez, vous mettez bien le genou ici, pas là. Et en sachant en plus, parce que je voyais ça l'autre jour dans un documentaire c'était sur la DEA. Justement, il parlait de la maîtrise des mecs, et il disait bien, ils utilisaient aussi le genou, mais il disait il faut pas mettre le genou sur la nuque. Et il donnait le cas justement de flics qui avaient mis le genou sur la nuque, vraiment le derrière du crâne, quoi. Il disait les mecs ont fracturé le cou d'un suspect, et ils se sont même pas rendu compte, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas fracturer le truc, mais simplement avec leur poids, ils ont fracturé le cou du suspect. Le suspect a ensuite, évidemment, porté plainte, etc. Et les flics ont été condamnés à 4 ans de prison. Bien sûr. Et donc, il disait, voilà, le genou, le cou, il faut faire attention, il faut mettre ça comme ça, etc. C'était intéressant, c'est pour le coup. Et c'était un documentaire dont je vous parle il y a plus d'une dizaine d'années. Hein. Donc, bon, voilà, c'est vrai que ça peut être gênant, mais ceux qui disent, voilà, le genou sur le cou, c'est problématique, faudrait pas que ça se fasse, sachez que c'est une technique israélienne.
Et oui, d'ailleurs, Chauvin est sous l'autorité, du moins, du chef de la police local, hein, de Minneapolis, donc c'est pas sous les ordres de Trump.
Ça, c'est important ce que tu dis, parce que vous voyez toutes ces manifestations dans les villes américaines, et en fait, les mecs vous disent on subit le suprémacisme au quotidien. Le suprémacisme systémique, hein. Donc la suprématie blanche, on la subit au quotidien. Or, regardez les cartes, hein. Les manifestations et les villes concernées ne sont pas des villes républicaines, c'est pas des villes de droite. C'est des villes de gauche. Toutes. Minneapolis, c'est une ville qui est gérée par un maire juif. Son parti est un parti, en fait, est un parti néo-communiste. C'est pas dit comme ça, hein. Ils disent démocratique, socialiste, mais bon, c'est vraiment la gauche dure. Il y a aussi des écologistes qui sont à sa gauche. Enfin, et il n'y a pas d'opposition de droite à Minneapolis. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est un parti un peu particulier. Bon, c'est une espèce de parti néo-communiste du Minnesota qui gère la ville de Minneapolis, et il y a quelques écologistes aussi au conseil municipal. Mais il n'y a pas d'opposition républicaine. Il n'y a pas de conseiller républicain. Il n'y a aucun républicain à l'horizon dans cette ville-là. Ça n'existe pas, d'accord? Ça peut paraître surprenant, mais c'est vrai. Donc, en fait, la ville est gérée par un maire juif, de gauche radicale, et les types vous expliquent que ça, cette ville-là, c'est le laboratoire du suprémacisme blanc. C'est-à-dire que les Noirs américains à Minneapolis subissent le suprémacisme blanc. Il y a quelque chose qui colle pas, on est bien d'accord. Comment se fait-il que toute cette agitation ait lieu dans les villes de gauche? Si c'est le suprémacisme blanc, ça devrait être que des villes républicaines. On devrait être dans le vieux sud, dans des villes où c'est géré que par des blancs. Non, c'est pas du tout ce qui se passe. Et donc, ce que tu dis est très important. Au passage, Alexis, c'est très très important le caractère géographique du problème. Vous regardez, ça ne se passe pas là où vivent les majorités blanches de droite. Ça peut être gênant, je pense, au niveau intellectuel, pour démontrer la suprématie blanche. C'est comme chercher la suprématie. Je veux dire, des gens qui défilent à New York contre la suprématie blanche, d'accord, des nègres qui disent on n'en peut plus, etc. Ils disent ouais, la violence, etc. Mais attendez, New York, c'est une ville pratiquement juive, d'accord? C'est une ville pratiquement juive. Il n'y a pas de suprémacisme blanc, d'accord, à New York. J'ai été à New York, moi, j'ai vu la ville. Ça n'a pas le début d'un commencement de. Les mecs manifestent contre la suprématie blanche à New York. C'est une ville, vous pouvez même pas dire. Enfin, il y a trop de races, vous pouvez même plus identifier quoi. C'est, je veux dire, ça colle pas, quoi, d'accord? Ils nous font le numéro des droits civiques dans les années 60. Vous savez, vous avez ces images avec Rosa Parks. Mais Rosa Parks, c'était une négresse dans une ville majoritairement blanche. On essaie de la forcer. Enfin, où on a forcé l'intégration, en fait, des Noirs à la majorité blanche. On n'est pas du tout là-dedans. Dans les villes en question, les Blancs sont minoritaires, archi-minoritaires.
Et ça n'a pas toujours été le cas, d'ailleurs. David Duke, par exemple, dit qu'il a été à Minneapolis il y a 30-40 ans, c'était pas du tout comme ça, hein. c'était blanc.
Fulbert, tu voulais parler.
Oui, je voulais dire qu'en plus, le chef de la police, c'est justement le maire. Hein, c'est en Belgique, oui. C'est le maire. Pas le même système, mais c'est similaire. Le chef de la police locale, c'est le bourgmestre. C'est peut-être pareil en France, je ne sais pas.
C'est comme en France, ouais, il est pour la police aussi. Ouais.
D'accord.
Bon, ainsi, dans une certaine mesure. Quoi.
Ainsi d'ailleurs que le numéro un responsable pour la garde nationale, qui est aussi intervenu sur l'ordre de Trump, le premier contrôleur local de la garde nationale, c'est le gouverneur de l'État. Alors il faut se poser une question du même ordre que celle que toi, grâce à Alexis, tu as posée. Il faut voir là où ça pète, eh bien, qui est gouverneur de
quel... C'est ça.
Et pareil pour les villes.
Bah, c'est simple, c'est les gouverneurs de gauche qui refusent de réprimer, en fait. En fait, je dis même réprimer, c'est un mot très fort, parce qu'en fait, ils refusent... Le cas de Minneapolis, c'est vraiment caricatural. parce qu'on va le dire progressivement, je pense qu'il y aura, oui, ça va reprendre un peu ce qu'on disait la semaine dernière, mais on va voir ensemble que, en fait, tout ça est coordonné en réalité. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de spontanéité. En fait. Et le premier élément là-dedans, c'est qu'effectivement, on s'intéresse à la géographie politique, on découvre, tiens, ah, les émeutes raciales, elles ont lieu dans des villes de gauche, pas des villes de droite, c'est bizarre, hein, comme je le disais, parce que nous avons soi-disant affaire à une rébellion contre un ordre blanc oppresseur, sauf que ça se passe dans des villes qui sont à minorité blanche, où la gauche domine totalement, donc ils se rebellent contre quoi? Contre la gauche pro-multiraciale, enfin, il y a un truc qui colle pas. Et comme tu le dis, ensuite, le désarmement à Minneapolis de la police, c'est-à-dire que la police a été retirée de la ville de Minneapolis par le maire juif, Jacob Frey, ce qui a permis aux émeutiers nègres d'incendier toute une partie de la ville, et notamment ce fameux commissariat, c'est-à-dire que le maire a donné l'ordre d'évacuer le commissariat. Les flics auraient très bien pu tenir le commissariat par les armes. Et ça aurait dû être le rôle, à la fois de la police et du maire, de s'assurer que ça soit le cas. Or, ils ont donné l'ordre inverse, et ils ont dit, oui, mais vaut mieux des destructions matérielles que des pertes de vie humaines. Bon, ça a été l'argument qu'ils ont utilisé. Et des gouverneurs ont traîné des pieds pour la garde nationale, parce qu'il y a trois niveaux, en fait, d'intervention. Vous avez le niveau d'intervention de la police, qui est du niveau de l'État. Alors, pour les Français, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, pour les Belges un peu moins, pour les Suisses un peu moins, mais pour les Français, c'est un peu difficile à comprendre, parce que tout est centralisé en France. Mais aux États-Unis, on va dire que l'équivalent en France d'une région a les pouvoirs de police. Comme en Allemagne, d'ailleurs. Donc, les pouvoirs de police dépendent soit du maire, soit... Et pour le gouverneur, c'est la garde nationale. C'est-à-dire, c'est l'armée, la réserve de l'armée disponible sur le territoire de l'État. Donc, type Alabama, Texas, voilà. Trump...
C'est la même chose, excuse-moi, mais c'est la même chose en Belgique. C'est-à-dire que l'équivalent du maire belge,
ouais,
il est le premier magistrat de la commune.
Ouais.
Donc, il a le pouvoir sur la police...
Ouais.
Il n'y a pas de police locale, hein, c'est une police nationale. Bon. Et en cas de trouble ou de problème, les piquets armés militaires, donc les piquets de la défense nationale, donc t'as un piquet par semaine dans chaque caserne de gars qui sont 24-7 prêts à partir en cas de décision du gouverneur de la province.
Ouais.
Le gouverneur dit il y a une émeute dans un stade de foot, j'ai besoin de l'armée parce que la police est débordée. Automatiquement, l'armée y va.
Voilà, bah, c'est très bien résumé. Et Trump, c'est le dernier niveau. C'est-à-dire, c'est le niveau fédéral, c'est l'armée américaine. C'est-à-dire que si la police est débordée, si la garde nationale, c'est-à-dire les militaires sous l'autorité du gouverneur de l'État en question, sont débordés, Trump peut dire, voilà, je déploie l'armée américaine. Donc là, il peut envoyer des unités diverses et variées dans les où il lui plaît. Bien. Et ce qu'on a vu dans cette phase-là, c'est qu'en fait, les gouverneurs de gauche ont tout fait, en fait, pour donner carte blanche aux nègres pour qu'ils crament. C'est-à-dire qu'ils ont pas voulu envoyer la garde nationale, ou ils l'ont laissé traîner. Alors, il y a eu des images aussi, et là, ça, c'est très important. Sur le coup du genou, enfin, le fait de ça, c'est autre chose, je vais y revenir. Mais on a vu des images de la garde nationale américaine faisant des numéros de danse. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
Oui.
Vous avez donc des rangs, hein, des rangs d'oignons de mecs en treillis, casque, gilet pare-balles, etc. Bon, les trois quarts sont des nègres. Les mecs dansent comme une chorégraphie, quoi. Ça a été un choc pour moi. Je pense que ça a été un choc pour un certain nombre de personnes parce que moi, je m'attendais pas à ça. Alors, je sais que la garde nationale n'est pas du tout... c'est pas l'avant-garde de l'armée américaine.
Ils dansent et, comme tu l'as un petit peu évoqué, il y en a certains qui se sont mis le genou à terre, hein, de la garde nationale.
Oui.
Alors, ça, on va revenir là-dessus.
Mais il y a deux points importants, à mon avis, lorsqu'on a développé sur Minneapolis, mm-hmm, que nous avons un peu sauté, je pense.
Vas-y.
Le premier, lorsque tu as parlé de la destruction, de l'incendie du bâtiment de la police, il ne faut jamais oublier une chose. Sauver des vies humaines, oui, je connais la charité de gauche, elle est pareille partout. Mais il faut bien vous dire qu'en laissant brûler le bâtiment de police, on laisse brûler le centre de communication et d'organisation de la police elle-même. Donc on se retrouve avec des policiers qui attendent après la crémation du bâtiment, parce qu'il était énorme ce bâtiment, vous l'avez sans doute vu, qui ont tout un système d'ordre qui les attend, qui est complètement inexistant, même pas désorganisé, qui est complètement détruit, qui est mis à bas. Bon, il y a ça. Ensuite, il y a autre chose. On peut considérer qu'en conséquence de cette destruction, hier, donc avec quelques jours de retard évidemment, mais bon, le maire, le juif, Jacob Frey, avait promis, enfin c'était pas hier, c'est avant, encore avant, avait promis aux émeutiers de réorganiser, de restructurer la police de Minneapolis en fonction de la composition de la population et de ses désirs. Je sais pas si tu as vu ça.
Alors, en fait, il y a un truc, je te redonne la parole, mais
oui.
Il y a eu une réunion de ce qu'on appellerait le conseil municipal, qui a dit, donc c'est des nègres, hein, et des gauchistes, ils ont dit, nous, on veut la dissolution de la police sur la ville.
Oui, ça, c'est plus récent. Ouais.
Ce qu'ils peuvent faire constitutionnellement, il faut savoir ça, c'est, on n'est pas en France... C'est pas centralisé de la même façon, donc qui demande la dissolution de la police et son remplacement, en gros, par des psychologues et des grands frères de quartier. Vous connaissez des animateurs culturels, quoi. Ben, bref, vous avez compris le truc, c'est plus de flics, que les nègres fassent ce qu'ils veulent, quoi. C'est le conseil municipal de Minneapolis qui a décidé ça à la majorité. Et le juif Jacob Frey, à mon avis, qui est... Tout juif qu'il soit a compris que ça pouvait aller dans une direction qui pourrait peut-être un petit peu le dépasser. Et il a dit non, je veux pas quand même dissoudre totalement la police. Il a peut-être aussi été franchement menacé par les flics, à mon avis, de Minneapolis. Mais voilà, enfin, disons que aux États-Unis, on en est là. Hein, je veux dire, à Minneapolis, dans d'autres villes, nous en sommes exactement là. Les masses de nègres, des soviets se mettent en place et les types disent. La police, donc, qui est censée faire appliquer la loi fédérale donc de l'État central sous la direction de Trump, par définition, c'est plus possible, ce n'est plus tolérable, on la dissout et on la remplace par nos gars à nous. Quoi. Voilà. On en est exactement là. Je te rends la parole, Fulbert, mais c'était pour dire la dynamique entre la population de Minneapolis, qui est composée, qui n'est pas à majorité noire d'ailleurs, attention, elle n'est pas à majorité noire, hein, 20% noire, hein, mais une masse de gauchistes, une masse de bobos ahurissantes. Mais c'est la dynamique entre cette populace et le maire juif.
Mais c'est là où je voulais en arriver, parce que dans un premier temps, comme je l'ai dit, il avait promis une réorganisation, une restructuration de la police. Bon, moi je n'ai pas vu le détail, mais j'imagine très bien, comme tu l'as fait, dans quel sens ça allait, où on allait réorganiser des unités de police... peut-être l'une afro-américaine, l'autre blanche, une troisième asiatique, peut-être, je ne sais pas, j'imagine. Bon, mais hier, le Jacob Frey en question, se sentant sans doute le vent en poupe et populaire, est descendu dans la foule et s'est mêlé aux manifestants. Et là, aux émeutiers, n'ayons pas peur des mots, et là, les émeutiers... principalement noirs, comme vous le savez, ont commencé à le huer parce que ils estimaient qu'il n'avait pas tenu sa parole quant à la dissolution de la police. Tu vois ?
Exactement.
Et il s'est fait carrément virer par les émeutiers, il a dû se tirer. C'est aussi simple. Ce qui fait penser que des gens comme Jacob Frey et dans d'autres villes, ces homologues, quelque part, qui ont laissé les émeutes, qui les ont facilités.
Oui, encouragés.
Oui. Ont ouvert véritablement, il y a quelqu'un qui disait, j'ai vu ça quelque part, que c'était la boîte de Pandore qui était ouverte et qui a même fait un jeu de mots en anglais d'ailleurs dessus. Mais je crois qu'effectivement, c'est ça. Moi, je ne peux pas faire autrement que, comme tu l'as fait par ailleurs, que comparer cette situation avec celle de l'Allemagne de 1919. Quand on voit aux États-Unis ce que tu as expliqué là, avec les militaires de la garde nationale qui se mettent à danser, les autres qui, comme dit Eric, qui se mettent à genoux en terre pour demander pardon en fait. Hein, mais on se retrouve dans cette armée allemande dont certaines unités en 1919 étaient passées aux communistes, s'appelaient les conseils de soldats, avaient leurs propres tribunaux pour les militaires mais aussi pour les civils. Et puis on a eu la fameuse réaction des corps francs. Donc maintenant, si la boîte de Pandore n'est pas contrôlée, je me demande si ce n'est pas là que les États-Unis vont, et par contre-coup, où nous allons, nous, peut-être aller. Hein.
Bah si,
mais si...
Vas-y, Alex.
Si je puis me permettre, Fulbert, déjà, il y a eu un précédent en Belgique. Hein. À savoir qu'en Belgique, on a laissé piller et démolir un commissariat de police lors d'une manifestation. Et en fait, si on compare, grosso modo, la situation qu'il y a eu en Belgique et la situation qu'il y a eu à Minneapolis, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nous sommes dans des baronnats de gauche. Des baronnats, de véritables baronnats de gauche, des villes, des États qui sont tenus par la gauche depuis des années. Or, ces gars-là comprennent très bien que la situation est en train de changer. Alors, ils ont deux options. Soit ils laissent la droite, ils perdent les élections, ils laissent la droite venir et rafler la caisse, et je dis pas que ça risque d'être différent, parce que bon, y a-t-il vraiment en ce moment, compte tenu des mauviettes que nous avons, une différence entre la gauche et la droite? Je ne crois pas. Enfin, c'est toujours l'éternel problème, quand t'as un salaire et une rente, t'as pas véritablement envie de la perdre. Et nous avons les médias qui... Soyons très clairs, le média ne se nourrit que du show. Donc, plus nous avons du show, plus nous avons des émeutes, plus ça pète, plus nous avons du scoop, plus les médias font du fric. Donc, les médias n'ont vraiment pas intérêt à calmer la situation. Et notre ami Floyd qui est mort, soyons très clairs, ce type est mort... On prétend que c'est à cause, que c'est un crime causé par la police. Je suis désolé, des camés du style de Floyd, dans ma vie, j'en ai déjà vu pas mal. Ces gars-là font pas centenaire. Hein. Ces mecs-là, à 40 ans, ce sont déjà des épaves complètes. À 50, c'est des zombies. À 60, ils sont entre quatre planches, généralement, ou alors... dans un asile de vioc complètement lobotomisé, à se pisser dessus parce qu'il croit qu'il pleut. Donc, il faut bien comprendre que cette situation, c'est d'un côté des baronnats qui ne veulent en aucun cas perdre leur pouvoir et chapeauter... Bon, alors on a effectivement les organisations de gauche, hein, ça je dis pas le contraire, foutre du napalm sur le feu, ça ils sont spécialistes dans le domaine. Mais on a des médias qui ne vivent que du buzz et qui, pour l'instant, sont en train de se faire des couilles en or.
Oui, tout à fait d'accord. Moi, je crois, hein, je ne vais pas la faire longue, parce que je sais que la Belgique n'intéresse pas tout le monde, mais ce qui se passe, c'est que, pour le moment, et c'est comme ça que moi je le perçois, mais je peux faire erreur, je pense que l'autorité, quelle qu'elle soit, a la trouille qu'une situation... similaire, je vais dire, à ce qui se passe aux États-Unis et ce qu'on craint en France, ces gens ont la trouille et ils essayent de freiner cette possibilité. Comment? Eh bien, je vois qu'en Belgique, plus qu'ailleurs, eh bien, le confinement, on le fait traîner en étapes. Et c'est un moyen, à mes yeux, pour asphyxier toute possibilité de manifestation de trop grande ampleur. C'est que Si tu regardes les médias belges sur Internet, là, les journaux comme La Libre, comme le Soir, RTL, etc., etc., tu t'aperçois qu'on parle encore, bien sûr, du coronavirus, mais qu'il y a une sorte de balance et un léger déséquilibre, parce qu'on voit maintenant autant, si pas plus, d'articles qui parlent justement des émeutes aux États-Unis, mais aussi ailleurs. Et le sens des articles va dans le sens des émeutiers, l'air de ne pas y toucher. Donc, comme tu dis, effectivement, les médias mettent de l'huile sur le feu, ça c'est certain. Mais je pense que les gouvernants, l'État fédéral, ainsi d'ailleurs que les gouvernements locaux, régionaux, je veux dire, pardon, essayent de freiner la chose. C'est une sensation que j'ai, j'espère ne pas me tromper.
Deux petites anecdotes sur ce que tu viens de dire. Je rappelle que le journal Le Soir est un journal national, normalement c'est un tirage à l'échelon national, qui a un tirage qui est inférieur à celui de Nice Matin. Et petite particularité du journal Le Soir, c'est que c'est le même pendant que pour la FNAC en Belgique, à savoir où tu es PD, où tu es lesbienne et tu auras un job, où tu es quelqu'un d'hétérosexuel et normal et ne compte pas pouvoir bosser dans ce genre de journal. Ou à la FNAC.
D'accord.
Alors, vas-y, Pierrot.
Non, je vais juste revenir sur le début de l'intervention de Fulbert, hein, que je valide totalement, et qui a un lien direct avec un article, d'ailleurs, qui est tombé sur le site cette semaine, sur le caractère, on va dire, stratégique militaire qui a été mis en place aux États-Unis, avec, en fait, les agitateurs marxistes, ils ont fait les mêmes tactiques qu'effectivement pour la révolution communiste qui a eu lieu en Allemagne après la Première Guerre mondiale, ou la révolution russe, finalement, tout simplement, où, en fait, c'est exactement les mêmes tactiques, hein, qui se sont mises en place, hein, c'est-à-dire qu'on prend d'assaut les forces de police, tout ce qui peut servir à faire de la coordination, tout ce qui a été les centres de télécommunication, radio, télé, internet, prendre d'assaut les grands axes routiers. Ça, c'est la doctrine communiste, en fait, qui est, j'ai envie de dire, c'est grand public, quoi. C'est ce qu'ils prônent comme stratégie militaire pour pouvoir faire leur coup d'État. Et puis, bon, toutes les entreprises de démoralisation générale, donc on a vu cette semaine, hein, toutes les boîtes, on va dire, américaines qui ont un peu approuvé la capitulation, tu sais, les autorités en prenant le Black Lives Matter, truc comme ça, ou tous les agents, on va dire, perturbateurs communistes qui ont enflammé tout ça en faisant de la gite propre. Je crois que c'était la semaine dernière, justement, on avait mentionné, je crois que c'était toi, Gandalf, qui mentionnait l'antifa qui a été collé en vidéo parce qu'il donnait du fric à des casseurs nègres, hein, pour que le mec continue à tout péter, ouais, aux États-Unis. Effectivement, ça fait partie d'une stratégie du chaos, en fait. Ils veulent installer l'anarchie. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que la vidéo en question, je crois qu'elle a été relayée par le président Trump en question. Il avait mis un petit commentaire ironique du genre « on voit des choses ».
Oui, oui, en citant la vidéo en question. Ouais. Non, il a dit « anarchiste, on vous voit ».
Ou « antifa, on vous voit », je crois, un truc comme ça.
Non, non, c'était « anarchiste, on vous voit ». Anarchiste, d'accord. See you. Et il retweet cette vidéo précise où on voit un blanc, enfin un gauchiste blanc, filer de la main du cash à des nègres pour monter des barricades, etc. Donc,
voilà. Une petite précision, pardon, sur son nom. On connaît son nom, je crois qu'il s'appelle Martin Weisberger. Et il a été identifié comme étant aussi membre de la campagne pour Bernie Sanders, le candidat communiste.
Oh, bah ça, c'est pas. Oui, accessoirement juif aussi. Oui, voilà. Bernie Sanders est quand même juif, hein, faut le souligner.
Mais il y a une petite.
Vas-y, Fulbert.
Il y a une petite chose qu'on a déjà dite, je pense, dans une émission précédente, mais qu'il est toujours bon de rappeler. C'est que jusqu'au moment où il y a eu la campagne présidentielle de Donald Trump, les Américains n'avaient, mais alors, aucune idée de ce qu'était un antifa, et probablement même qu'ils n'en connaissaient pas le nom. Les Antifa ont véritablement été importés aux États-Unis, le principe, hein, depuis l'Europe. Certains accusent Soros, c'est probablement vrai. Mais les Américains, pour eux, c'est un phénomène qui n'existe que depuis l'arrivée, ou du moins la, plutôt...
2015.
Pardon ?
2015, exactement.
Quelque chose comme ça, oui. Ouais. Oui, puisque la présidentielle, c'est en 2016, je crois. Hein.
Tout à fait. Et notez bien, hein, regardez comment, à un siècle de distance, finalement, on se retrouve dans l'Allemagne des années 20, des années 30. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait frappant, quoi. Alors, les gauchistes aiment bien dire ça. Ouais. Ah ouais, on retourne dans les années 30. Ouais. Non, oui, non. C'est pas les fascistes qui organisent ça. Ce sont les puissances d'argent et les marxistes, avec au centre du dispositif les juifs, qui créent les conditions des années 20 et des années 30, auxquelles ripostent les peuples agressés, avec une avant-garde qu'on appelle les fascistes. Mais les fascistes ont été diabolisés, et pour cause, puisque ceux qui tiennent les médias sont les puissances d'argent juives, donc c'est eux qui disent qui a tort, qui a raison. Mais il faut bien comprendre, quand on dit on revit les années 20, les années 30, il faut bien comprendre... Nous ne revivons pas l'accès au pouvoir des fascistes. Ça peut arriver. C'est-à-dire que quand le plan juif foire, comme en Allemagne par exemple, effectivement, ça peut se terminer comme ça. Mais quand on dit on revit les années 20, les années 30, c'est qu'on revit en fait la radicalisation de la juiverie. C'est ça qu'on vit en fait. C'est-à-dire que les juifs se radicalisent, utilisent un certain nombre de procédés pour garder le système sous contrôle, etc. Et évidemment, ça suppose de durcir beaucoup plus le ton. Notez avec quelle vitesse on est passé de la psychose du Covid, hein, voilà, on a tous crevé de la peste noire, qu'est le Covid-19, qu'est le coronavirus, à sortez tous, il faut faire des émeutes raciales, à bas le racisme. Je veux dire, ça s'est passé en moins de 3 mois. On aurait dit, on aurait dit ça au début de l'année, les mecs, quoi. Je veux dire, les gens passent en un mois d'un état d'esprit qui est pratiquement l'apathie générale. Moi, on s'en plaignait même dans une émission précédente, en disant, voilà, c'est l'apathie, il se passe plus rien, c'est le désert des Tartares, une explosion de violence avec des médias qui assistent, qui disent, allez-y, faut sortir. Et là, on se dit, attendez, c'est pas possible, c'est les mêmes médias qui nous sortent les mêmes experts pour nous dire, restez chez vous, parce que si vous sortez, vous êtes un assassin, vous allez tuer des vieux. Ah, 3 semaines plus tard, sortez tout de suite, si vous ne sortez pas, vous êtes complice, vous êtes un assassin. Vous êtes un tueur de noir. Et les gens, comme des cons, ils vont... Oui, je reste chez moi. Ah oui, non, je vais sortir. Bon, il n'y a pas autre gens... Il y a plus de gens qui sont restés chez eux que ce qu'il y a eu de gens qui sont sortis, c'est vrai. Enfin, l'unanimisme médiatique est absolument fascinant, et ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être fortuit, par évidence. Vous ne pouvez pas avoir, dans la totalité du monde occidental, surtout... un monde occidental qui est divisé par un océan aussi grand que l'océan Atlantique, ne pouvait pas avoir une telle unanimité des médias radiophoniques, télévisuels, écrits, sans qu'il y ait une coordination, en sachant surtout qui c'est qui contrôle tous ces médias. Ce sont les mêmes milliardaires. Moi, je voyais bien, on va passer à la famille Traoré un petit peu après, mais bon, on voit que Drahi est à la manœuvre, on le voit avec BFM TV, Libération... On le voit, bon. Et ça c'est jusque la France, c'est les autres pays c'est pareil, les États-Unis n'en parlons pas. Donc non, c'est une révolution de couleur. C'est une tentative de révolution de couleur à l'arrivée des élections. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, on peut pas totalement tout de suite dire on renverse le pouvoir, comme en Ukraine. Mais on va renverser l'élection. Voilà. Donc, et là, on y va, quoi. Et je pense qu'on est là-dedans. On est exactement là-dedans. Et là, tout d'un coup, ah, c'est marrant, les maires disent, les flics, barrez-vous de la ville. Les gouverneurs disent, non, je sais pas, quoi faire. Les gouverneurs de gauche, hein. On a des antifas qui sortent de partout alors qu'ils étaient calmes, etc. Un mouvement est réactivé, Black Lives Matter, donc des nègres sont payés de la main à la main pour aller faire le... Bon, ok, on a compris. Ouais, voilà, c'est le modèle de l'Ukraine en 2014. Ni plus ni moins.
En fait, faut dire que la juiverie... Vas-y, Fulbert, vas-y.
Non, vas-y, Pierrot.
Ouais, bon, ça va être fait, la juiverie, c'est vrai qu'ils n'ont pas, pas grand-chose à reposer, quoi. Joe Biden, bon, il est complètement transparent. Là, j'ai noté juste, par exemple, cette semaine, il y a l'ancien président américain, George Bush Jr., qui a annoncé qu'il allait voter pour lui, pour Biden, hein, pas pour Trump.
Ah ouais, qu'il aurait dû d'accord.
Et pareil pour Colin Powell, vous savez, le mec qui agite des Tampax à l'ONU en la disant fiole, que c'est l'anthrax, donc... Ouais. Donc, ils essayent en fait de sortir des cadavres du placard parce que, honnêtement, si jamais l'élection devait se passer demain, même si les gens ils aiment pas Trump, je pense qu'ils disent juste, en fait, Biden, il n'existe pas, quoi.
Ouais, il y avait le projet, alors ça beaucoup le disent, que le projet c'était de mettre Michelle Obama, puisque vu que Biden a, semble-t-il, des problèmes de gâtisme, hein, il commence à avoir Alzheimer.
De zizi.
Aussi, ça n'empêche pas, mais de mettre après Michelle Obama comme pour apaiser les tensions raciales, pour dire ouais, Joe Biden doit se retirer pour raison de santé, puis en plus, vous voyez, les tensions raciales, alors à l'époque d'Obama, il n'y en avait pas, des tensions comme ça, il œuvrait pour tout le monde, etc., tout le monde était à égalité, enfin, ce genre de blabla, évidemment. Mais c'est possible que ce soit véritablement leur projet, beaucoup de gens y pensent.
Il y a la mère Clinton aussi qui est pas loin, hein. faut pas la perdre,
oui. Celle-là. D'ailleurs, sur Bush, c'est marrant, parce que la famille Bush, on nous a vendu pendant très longtemps l'opposition entre Bush et Clinton, comme quoi c'était des familles, parce que des personnes, des familles opposées, mais en réalité...
C'est des querelles de famille, Bush, précisément.
Les Bush sont beaucoup plus proches des Clinton que d'autres hommes. Déjà au moment de l'élection en 2016, je crois qu'il y avait le père, le Bush, qui est mort entre-temps, qui avait dit qu'il ne voterait pas non plus pour Trump, le fils qui a peut-être même dit qu'il voterait pour Hillary Clinton. Enfin, en tout cas, il n'y avait aucun soutien à Trump, déjà, de la part de cette famille auparavant.
En oui, non, cas, mais... Ouais, vas-y, Fulbert.
Oui, je voulais dire en tout cas une chose est certaine. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Moi, je suis relativement optimiste. Mais si Trump menaçait ses ennemis politiques de sanctions assez lourdes, eh bien, ce que ses ennemis politiques ont entamé maintenant, avec ce dont nous avons parlé maintenant... Les têtes, il y en a beaucoup qui vont tomber. Hein.
Il ne le fera pas. Parce qu'en fait, et là je voulais parler de ça aussi, donc on a vu la police... Alors, cher Derek, on a vu la police mettre un genou à terre dans un certain nombre de villes, etc. C'est pas toute la police américaine, je tiens quand même à nuancer. Hein. Mais dans les villes en question, c'est-à-dire les villes de gauche, dans les villes
de gauche, ouais.
Contrôlées par la gauche, ça y est, le principe est acquis... Les flics deviennent mettre la crosse en l'air, se forment en soviet, se prosternent aux pieds des antifas et des nègres. J'ai vu aujourd'hui une magnifique scène, c'est presque religieux, c'est religieux, même on peut le dire, de blancs qui se prosternent devant des nègres qui sont sur des, comment dirais-je, des espèces d'estrades, pour leur laver les pieds. Et vous allez me dire, bon d'accord, des gauchistes hystériques, des blancs qui veulent se flageller, etc. Bon. D'abord, ils n'étaient pas 2-3, hein. C'était déjà un bon paquet de mecs. Hein. Mais dans l'eau, il y avait des gens qui portaient l'uniforme.
Oui.
Donc là, on est dans un délire révolutionnaire, mystique même, hein, un caractère mystique, comme on a pu effectivement trouver en Allemagne en 1918-1919. Hein. Donc, c'est-à-dire, voilà, ça y est, le communisme arrive, ça y est, c'est la fin de l'histoire, voilà. Et on voit des gens en uniforme qui le portent et qui font ça. Là, tu dis, attention, là, y a déjà des partis, on va dire.
Alors, ça existait déjà, des gens en uniforme qui faisaient ça, ça s'appelle le pape.
Oui, mais bon, on se comprend, je veux dire, le pape, c'est bien gentil, bien sûr, je vois ce que tu veux dire, symboliquement. Mais Bergoglio, si tu veux, n'est pas en charge de la sécurité, tu vois ce que je veux dire, il n'a pas de pouvoir régalien réel. Enfin, si, sur le Vatican, mais enfin bon, c'est très symbolique.
Disons que ça fait tache d'huile, quoi. Hein,
ça fait tache d'huile, ça je suis d'accord, t'as tout à fait raison. Mais maintenant, on voit des villes américaines... basculer dans le bergoglisme, c'est ça que je veux dire. Et des gens en uniforme et trucs. Et là, oula. Donc, déjà, vous avez compris que dans ces villes-là, si vous voulez, l'autorité du président américain n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est fini. C'est complètement évaporé. Alors, on peut se dire, bon, bah, on s'assoit dessus. On s'en fout. Voilà, c'est pas grave. On regarde à côté, quoi. Oui, mais enfin, si on a une coalition de villes qui ne reconnaît plus l'autorité présidentielle américaine parce qu'elle leur déplaît et qui commencent à dire à leurs flics lâchez le cul des nègres, faites copain-copain avec les antifas. À quel moment, si vous voulez, la police, les antifas, ça devient la même entité? Vous voyez, d'accord, au bout d'un moment, ça va s'homogénéiser tout ça. C'est-à-dire que les flics seront des flics antifascistes. Donc ça sera une police rouge, en fait. Au sens, là, pour le coup, au sens strict, orthodoxe du terme. Ça sera une police révolutionnaire communiste. C'est ce qui est en train de se passer dans un certain nombre de villes. C'est ce qui est en train de se dérouler. Et là, donc c'est dans ce climat-là, dans ce climat d'anarchie, on devrait dire, bon, il y aura quand même une réaction de bon sens des gens qui sont vraiment au pouvoir, enfin, qui détiennent vraiment... Pas, je parle pas des gens de Trump, hein. Je veux dire vraiment des autorités constituées, des corps constitués qui vont dire, attendez, là, c'est du délire, on fait pas de politique, mais enfin quand même, là, non, on peut pas demander la dissolution de la police, on peut pas avoir des flics qui fraternisent avec des agitateurs ou des révolutionnaires, non, ça c'est pas possible. Et ben pas du tout. Le point qui m'a le plus frappé, je crois, cette semaine, c'est la communication par le chef de l'état-major américain, plus toute une série d'autres personnes, hein, des généraux, des amiraux de la marine américaine, des généraux très importants de l'armée de terre américaine. J'ai vu aussi le secrétaire d'État, à l'armée, enfin c'est le secrétaire d'État adjoint à l'armée, vous savez, il y a le secrétaire d'État à la défense, et en fait, le secrétaire d'État à la défense gère, un peu le ministre de la Défense, quoi, gère des sous-secrétaires d'État par corps, parce que l'armée américaine étant tellement grande, il y en a un par arme. Et donc, on a vu le sous-secrétaire d'État américain à l'armée de terre s'associer à la lettre en question, à la lettre écrite. Qu'est-ce que disaient toutes ces lettres? En gros, il faut pas discriminer. Il faut faire plus pour abattre le racisme. Il faut être davantage inclusif, etc. L'armée américaine ne peut pas tirer sur ses citoyens. C'était des serments d'allégeance à la cause ennemie. J'ai jamais vu ça.
Si, en un cas.
Ah oui, non, je veux dire, aux États-Unis.
Oui, la guerre de sécession.
Voilà, c'est ça. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que faut bien comprendre un truc, hein. C'est-à-dire que ces militaires, et en plus, le pire, c'est Matisse, l'ancien secrétaire d'État à la Défense, donc l'ancien ministre de la Défense de Trump, que Trump avait choisi, qui est l'ancien général des Marines américains. Bien. Cet homme bénéficie d'une excellente réputation auprès de ses troupes.
Oui, je me permets de t'interrompre avec une toute petite parenthèse. À propos de Matisse, te souviens-tu du surnom qui lui est donné depuis très longtemps ?
Mad Dog.
Mad Dog, le chien fou. Exactement. Fin de la parenthèse.
Et donc, ce gars-là, bon, les militaires étant traditionnellement, en tout cas en Occident, depuis que la démocratie a triomphé, ça, étant traditionnellement, même avant la démocratie, traditionnellement tenu à la réserve. C'est-à-dire que les généraux ne s'expriment pas en politique. D'abord parce que c'est des emmerdes, il y a très peu de choses à gagner. Bien. Quand des généraux expriment des opinions politiques, précisément, on peut se dire que l'affaire est sérieuse. Parce que justement, en tant que généraux, ils ont très peu de choses à gagner à prendre des positions politiques. Donc ce n'est pas tellement qu'ils ont des choses à gagner que des choses à perdre s'ils ne prennent pas de position politique. Or, Matisse, qui, je le dis, jusqu'à présent, a toujours fermé sa gueule. Il a fermé sa gueule sous Bush, il a fermé sa gueule sous Obama, ils ont fait les pires saloperies. Tout d'un coup, ce monsieur, il a ressenti le besoin urgent de communiquer sa pensée sur la situation américaine. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il y a trois jours. Il a dit, Trump, c'est le seul président que j'ai jamais connu, donc le type a 50 ans, je crois, d'état de service. Bon, c'est tout à son honneur, moi je suis pas un militaire, donc je juge pas sa carrière, mais pendant 50 ans, il a fermé sa gueule. Tout d'un coup, il ouvre sa gueule, maintenant, en pleines émeutes nègres, agitées par l'extrême-gauche, avec le soutien des médias, comme on a vu. J'ai oublié de préciser qu'il y a une église présidentielle incendiée à deux pas de la Maison-Blanche, par des émeutiers, c'est-à-dire des antifas et des nègres ont cramé une église historique classée à deux pas de la Maison-Blanche, donc c'est ces gens-là qui sont à l'action, ils crament des postes de police. Et on voit Matisse qui sort et qui dit « Ce président est le premier président de toute ma carrière qui divise activement le peuple américain. » Il faut pas être con. C'est le coup de sifflet. C'est le coup de sifflet aux troupes. C'est-à-dire que ce mec-là est au moins pour le corps des Marines, juste pour le corps des Marines qui est construit comme un corps d'élite aux États-Unis. Au moins pour le corps des Marines, c'est-à-dire Trump, c'est pas notre mec. Ça ne veut pas dire que tous les Marines sont d'accord avec Matisse. Mais ça ne peut pas ne pas avoir un impact considérable sur le corps des officiers. Ça ne peut pas ne pas avoir d'impact. Et il intervient là-dessus le même jour, mais le même jour, à 24 heures, que la publication de toutes ces lettres. Elles étaient partout, dans la presse, sur Twitter, partout. Les officiers, tout d'un coup, enfin les grands officiers, les officiers généraux, se mettent à bavarder. Ils bavardent. Et écoutez, c'est pas possible. Et dans la foulée, toutes les multinationales se mettent à pondre des communiqués dans tous les sens. Mais tout le monde. On annule la promotion de la PlayStation 5. Il y a des marques de crème glacée se mettent dans le truc. Les chaînes de fast-food, Amazon, non, on va recruter des nègres. Écoutez, vous avez déjà vu une révolution prolétarienne, vous, qui est engagée par les plus grandes puissances d'argent du pays le plus riche de la planète ? Ça fait une drôle de révolution prolétarienne, vous êtes d'accord avec moi ? C'est quand même très étonnant, quand même. La révolution engagée par les puissances d'argent, les plus grandes multinationales du monde ?
Ouais.
Un mois après la fin du déconfinement ?
C'est comme les Antifa, du coup, qui se disent anti-système, et qui, dans les faits, sont avec les flics, quoi.
Ah bah totalement, j'ai vu ça aujourd'hui, d'ailleurs il y avait un mec, il s'est planté, c'était un provocateur, hein, mais il voulait les troller, il arrive avec un blackface, vous savez, il se peint la gueule en noir, il arrive au milieu d'une manifestation Black Lives Matter, c'était au Canada. Tous les antifas, ils appellent les flics. Eh, arrêtez-le.
Ouais, non, juste précision sur les fameuses crèmes glacées que tu évoquais, mon cher Gandalf, hein, donc c'est, je pense que tu faisais allusion à Ben & Jerry's, et donc c'est une entreprise qui est gérée par, qui a été créée et qui est gérée toujours par deux juifs, hein. Deux juifs qui ont donné leur prénom à leur entreprise et qui sont des communistes, hein, pour le coup. Juifs communistes.
Mais c'est très intéressant ce mélange judaïsme, capitalisme, bolchevisme. Hein, y a des constantes. Dans le même genre, j'ai vu Jamie Dimon, qui est le PDG de la JP Morgan, qui est d'origine juive grecque, qui avait un genou à terre devant, alors rien que moins que son coffre-fort. Hein. Je déconne pas, hein, c'était sur Fox News. Non mais carrément, le coffre-fort. Non vraiment.
C'est pas con ça.
Non mais carrément, c'est-à-dire que c'était comme disait Audiard, c'était une synthèse. C'était une synthèse de ce qui est en train de se passer. Effectivement, une révolution négro, je sais pas comment dire quoi, négro-communiste sous la direction des banquiers juifs. J'ai trouvé ça fascinant. C'était en direct à la télévision. Alors, pourquoi j'ai parlé de l'armée ? Parce qu'on me disait, et alors, des généraux ont écrit des trucs. Bah, c'est parce que Trump a dit à un moment donné, quand visiblement les gouverneurs de gauche et les maires de gauche ne voulaient rien foutre, enfin, ils donnaient carte blanche aux émeutiers, pour établir des soviets, comme on l'a dit, il a dit, je peux être amené à déployer l'armée américaine dans ces villes pour restaurer l'ordre et protéger les propriétés ainsi que la sécurité des individus. C'est là-dessus que sont sortis tous ces gens-là du bois. Ils ont dit non. Nous, les généraux, et pas n'importe lesquels, hein, chef d'état-major, même le secrétaire d'état à la défense Esper, donc le ministre de la défense de Trump, s'est opposé publiquement à Trump sur la question. Ça revêtait le caractère d'une rébellion, ni plus ni moins, ni plus ni moins. Quand Trump a dit « je suis peut-être amené à déployer l'armée », les généraux sont dit « non, ça ne se passera pas ». Ils n'ont pas dit ça comme ça. Ils ont dit la diversité, truc, maintenant. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'on voit ? Et ça, c'était disponible sur tous les réseaux sociaux. On voit des soldats américains, y compris de la 101e, j'ai vu ça, hein, des soldats de la 101e division aéroportée américaine, mettre le genou à terre devant des nègres et des antifas. Moi, si vous voulez, je ne crois pas que ces gens-là brûlent d'un antifascisme si intense qu'ils ressentent ce besoin naturellement. Je crois qu'ils ont reçu des ordres. Je pense, je pense que c'est clair. On leur a dit, les gars, va falloir que vous envoyez les bons signaux, et voilà les, signaux. Ce qui revêt du coup, en fait, ouais, clairement ici, un sabotage organisé qui n'a rien à voir avec une espèce de révolution populaire contre un dictateur. Ça, c'est pour les cons, c'est ce qu'expliquent les médias juifs. En réalité, c'est le sabotage du sursaut populiste, c'est-à-dire du sursaut populaire par tous les corps constitués. Et là, on voit l'armée, on voit les multinationales, on voit les banquiers, on voit les médias, et ils payent des cons, et des nègres, on l'a vu en vidéo, de la main à la main, on paye des agitateurs nègres pour tout bloquer. C'est ce qui se passe maintenant, c'est une révolution de couleurs.
Oui. Pour ce qui est de Matisse, moi je voudrais rappeler une petite chose quand même. Le type, au départ, il est opposé à Trump, même si Trump le fait sortir, disons, de son rôle de retraité militaire pour en faire le ministre de la Défense, je vais dire, il est opposé à Trump dans le sens où il est pour la préparation d'une guerre avec l'Iran. Oui. C'est-à-dire qu'il est exactement dans la ligne de ce que l'adversaire de Trump, Hillary Clinton, annonçait dans ses discours de campagne, qu'avec elle, l'Iran n'aurait pas intérêt à bouger le moindre petit doigt, sinon elle le rentrait dedans. Alors, Matisse a dû ravaler sa chic probablement, est devenu le ministre de la Défense de Trump, jusqu'au moment où Trump, ça devait être en 2018, a décidé de retirer un maximum de troupes américaines de Syrie, estimant que l'État islamique était vaincu. Et c'est à ce moment-là que Matisse a remis sa décision. Donc là, Trump, à ses yeux, était vraiment allé trop loin en politique extérieure. Alors, il serait assez logique de penser que, eh bien, Matisse, finalement, a rejoint ce que les Américains appellent le « deep state », l'État profond, ouvertement.
Oui, enfin, je crois qu'il a toujours appartenu à l'État profond, mais disons que là, il a fait allégeance publiquement, et à un moment crucial, parce que tous ces gens-là... C'est là qu'on voit, vous voyez comment ça fonctionne, c'est-à-dire que ces gens-là qui prêchent l'antiracisme, en fait, sont des gens qui comprennent totalement les mécanismes raciaux. Hein. C'est-à-dire qu'ils savent comment déclencher les nègres, comment déclencher des arabes au Moyen-Orient, enfin, ils maîtrisent tout ça très très bien. Je veux dire, faut pas les prendre pour plus stupides qu'ils ne sont. Hein. Ils prêchent l'amour universel, la fraternité humaine devant les caméras. En réalité, ce sont des gens d'un cynisme absolu qui comprennent parfaitement que les nègres sont inassimilables, que ce sont des bandits, des brigands, je veux dire des voleurs nés. Il suffit juste de leur donner le signal, ils vont aller le piller le premier magasin. Et ils utilisent ça pour semer le chaos, parce qu'ils veulent le chaos, ils ont besoin du chaos parce que je pense qu'ils sentent que électoralement c'est compliqué à ce stade.
Je te rappelle quand même une chose, Gandalf. Tu as dit que Matisse a toujours fermé sa gueule. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que Matisse, si mes souvenirs sont bons, il est full général.
Ah oui.
Et qu'il arrive à l'âge de la retraite. Et que tous les gars qui sont full généraux, qui arrivent à l'âge de la retraite et qui ont des prétentions politiques, commencent à l'ouvrir justement avant de la prendre. Donc oui, c'est très tactique ce qu'il fait, notre petit copain.
Ça fait penser beaucoup à De Villiers.
Il est retraité déjà depuis quelques années, Matisse. Hein.
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas. Et il pourrait être totalement disponible pour une élection. Ce n'est pas totalement impensable.
Non seulement ça, mais attention, il faut bien se rendre compte que quand tu es full général à la retraite aux États-Unis, généralement, tu as créé une entreprise où tu es engagé comme conseiller à la défense ou un truc du genre dans une unité quelconque. Regarde, tu as une flopée d'attachés militaires d'ambassades aux États-Unis, d'ambassades américaines implantées à l'étranger, qui, quand ils prennent leur retraite militaire, se retrouvent conseillers dans différentes bases à gauche et à droite.
Il y a aussi la question du général Flynn qui montre à quel point l'armée est un pivot central et que l'État profond cherche à mettre la main là-dessus afin de déstabiliser Trump. Enfin, je ne sais pas si on avait parlé récemment du général Flynn ou pas.
Bon, on en a eu parlé, mais disons que ça, c'était quelqu'un qui, en fait, avait une stratégie assez qui était complètement en raccord avec celle de Trump. C'était il faut s'allier avec la Russie contre la Chine.
L'énorme problème de Trump en ce moment, c'est qu'on est en train de lui ronger les ongles. Hein. Il peut plus bouger à cause des militaires, il peut plus bouger à cause des gouverneurs, il peut plus bouger à cause des différents maires, et la situation continue à empirer. Alors, il va se retrouver aux élections dans une situation qui va être particulièrement rock'n'roll, parce que avec la crise du Covid. Et le fait que les centres-villes crament, c'est-à-dire tous les petits commerçants, tous les efforts qu'il a fait pour créer des emplois vont être totalement réduits à néant. Pour l'instant, c'est une porte ouverte à la gauche, mais alors, c'est même plus une porte ouverte, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de faire.
Oui, totalement, ouais, ouais, la gauche a besoin de la pauvreté pour prospérer, tout à fait. Ça, c'est clair. D'ailleurs, je pense que c'était le but de la pandémie imaginaire, hein, c'était ça, hein, c'était de foutre partir l'économie parce qu'ils pensent que c'est la bonne façon de reprendre les rênes, quoi. Alors, il y a un truc, bon, je pense qu'on peut en parler aussi, bien sûr, c'est le fait que ça a fait tache d'huile immédiatement, la même semaine, hein, en France, avec le rassemblement de 20 000, plus de 20 000 nègres devant le palais de justice de Paris, ou la cité judiciaire de Paris, le nouveau bâtiment, là, qui d'ailleurs, je dois le souligner, est particulièrement laid. Trois cubes empilés l'un sur l'autre, affreux. Je ne sais pas quelle ahurie a pu avoir une idée pareille, bref. Mais ça faisait ton sur ton avec les nègres qui gisaient au pied. Vraiment, on avait l'impression d'un coup d'État africain. Hein. C'était assez intéressant. Et en fait, c'était pour l'affaire d'Adama Traoré. Et j'ai été stupéfait sans l'être. Du fait que les médias français, comme BFM TV, qui ont donné carrément qui ont tendu le micro à Assa Traoré, LCI, j'ai le titre d'LCI qui est absolument fascinant, là, permettez-moi de citer, Assa Traoré, la sœur devenue militante contre les violences policières, avec un portrait presque héroïque, vous savez, il y a une façon de cadrer, presque héroïque de cet Assa Traoré, par LCI, enfin, je veux dire, il n'y a absolument aucune prise de distance. Les types reprennent totalement le point de vue des insurgés nègres soutenus par les Antifa. Ça s'est passé la même semaine. Pardonnez-moi, je sais que j'ai des penchants complotistes, mais c'est quand même un peu gros. C'est quand même un peu gros pour une affaire qui a 4 ans déjà. Donc là, on a créé de toute pièce une insurrection coordonnée avec ce qui se passait aux États-Unis. La presse était complice. L'oligarque juif Drahi a prêté la main, visiblement. Et on évacue totalement la réalité de ce qu'est la famille Traoré. C'est-à-dire qu'on ne explique pas aux gens ce qu'ils ont fait. Les gens lambda ne connaissent rien de cette affaire. Ils entendent juste « Ah oui, un noir a tué dans une circonstance un peu trouble. » Non, non, c'est pas trouble. Si vous vous intéressez aux faits, c'est pas trouble du tout. Tout le monde connaît l'affaire. On connaît aussi l'histoire de la famille Traoré. J'ai toutes les informations là, je pourrais même les citer. La presse, sciemment, ne cite rien de ça. Ils ne parlent pas de ce qui s'est passé à Beaumont-sur-Oise en 2016, de l'insurrection raciale qu'il y a eu en 2016 à Beaumont-sur-Oise, avec des tirs à balles réelles, hein, sur les flics, et pas 2-3 tirs, hein. Pas 2-3 tirs, hein. C'est des fusillades contre les flics, avec des blessés par balles, enfin, 13 flics blessés par balles, je pourrais revenir très en détail là-dessus, sans parler du pédigré de tous les frères Traoré, hein, et, ils sont tous en tôle, jugés, trucs, enfin, tout ça est intégralement évacué par les grands médias français, donc les médias des milliardaires, hein, et on nous dit, c'est-à-dire que la presse, il y a un truc qui colle pas, si vous voulez. Il y a un truc qui colle pas. Comment se fait-il que la presse, qui est détenue par des milliardaires, dont des milliardaires juifs, reprend telle quelle la narration des Antifa et des nègres? Il y a quelque chose qui colle pas. Au terme même de l'idéologie gauchiste, c'est pas possible. Vous pouvez pas avoir une presse de milliardaires qui adopte un discours prolétarien. Il y a un truc qui colle pas. Bah si, c'est comme aux États-Unis. C'est qu'en fait, le système resserre les mailles du filet, en fait, sur la population. Et les nègres et les gauchistes sont les miliciens de l'ordre établi, en réalité. Mais grâce à la propagande antiraciste, on neutralise psychologiquement toute forme de résistance. C'est-à-dire, vous résistez, vous êtes un raciste. Le racisme étant le tabou par excellence aujourd'hui, comme vous le savez. Donc, vous pouvez pas réagir. Vous êtes obligé de rester prostré. Et c'est ce qu'on vit, hein, des deux côtés de l'Atlantique. Et le cas Traoré, c'est absolument ahurissant. Je veux dire, un million d'euros de destruction. Incroyable, quoi. Et comment dirais-je, les flics sont assiégés, c'est clair, hein, je veux dire, là, on voit, les flics sont assiégés, hein. Les syndicats de policiers résistent sans résister, parce qu'en fait, c'est des cons, il faut le dire, c'est des cons. Ils ont pas de suite dans les idées, ils savent même pas ce que c'est. La guerre subversive, ils sont au courant de rien, ou alors ils ont lu ça dans un bouquin, ils ont oublié, enfin c'est ahurissant, ils ont aucun réflexe d'autodéfense, ils sont en train de se défendre comme des pucelles sur les plateaux de télévision, oui mais on n'est pas vraiment raciste, non mais ça c'est un malentendu, etc. Bon, incroyable, je veux dire, ils se font subvertir à une vitesse ahurissante, et voilà, c'est sous nos yeux.
Mais ils essayent d'acheter une sorte de paix sociale, quoi, mais ce qu'ils savent pas. Je pense que c'est l'ignorance ou de la bêtise, un des deux. C'est qu'en fait, les immigrés, ils s'en foutent de tout ça, quoi. Ils en voudront toujours plus, même s'ils justifient. C'est sans fin.
Ce qu'il faut comprendre par rapport à la police, bon, qui conserve l'ordre établi, mais pourquoi cette coalition des puissances d'argent qui soutient comme ça, par sa presse, les antifas et les nègres face aux flics? En fait, c'est pas que la police consubstantielle. La police, en fait, en France, comme vous le savez, historiquement, depuis 1945, elle est antifasciste. C'est ça qui est drôle. Mais elle était antifasciste avec un train de retard. C'est-à-dire que, à son corps défendant, la police est ce qui maintient l'application de la loi. La loi est ce qu'aspire, à un moment ou à un autre, le peuple. Bon, je caricature un petit peu, mais grosso modo, c'est ça. Bon, grosso modo, je dis bien. Mais surtout, c'est le potentiel de la police. C'est-à-dire que potentiellement, la police pourrait devenir, ou redevenir, l'instrument d'un État qui est l'État du peuple. C'est-à-dire d'un État populaire. En réalité, d'un État populiste. Donc en fait, c'est pas la police républicaine qui vise. C'est la possible police populiste qui vise. En cas de retournement, si vous voulez, historique. Et donc les mecs prennent les devants. Donc ils se disent, on va l'éroder, on va la neutraliser, on va la châtrer, on va la rendre totalement impotente, on va lui faire reprendre nos slogans, etc. On va la foutre à genoux devant nous. Et j'ai vu le syndicaliste Le Braz. David Le Braz, je l'ai vu dire, je me serais mis à genoux devant les manifestants, devant la négraille de banlieue. Les mecs qui les caillassent, qui leur tirent dessus à l'arme réelle, etc. Ah ouais, sur ordre de Traoré, vraiment. Devant des gens comme ça, vous serez mis à genoux, etc. Regardez jusqu'où ils en arrivent. Ça leur fait pas plaisir, hein, le David Le Braz, ça lui fait pas tellement plaisir. Mais il le dit. Il le dit parce qu'il sent que le rapport de force n'est pas du tout en sa faveur. Pourquoi ? Il a les grands médias contre sa gueule. Tous les médias jouent contre les flics. Hein. Tous. Sans exception. Mais il joue pas contre les flics républicains. Vous avez qu'à remarquer, hein, quand la police républicaine fait bien son boulot antifasciste en traquant des nationalistes, tout d'un coup, là, la presse, elle est dithyrambique. Hein. Oh, pff, génial, super, on en veut plus, vous voyez. Mais dès que ça se calme, et dès qu'il y a une matraque qui glisse dans le cul d'un nègre, façon Teoloacum, matraque imaginaire bien sûr, aussitôt tout le monde se mobilise, le président de la République arrive, etc., le président de la République contre sa propre police. Il y a un truc qui colle pas, on est bien d'accord, il y a un truc qui colle pas. C'est pas normal qu'un président de la République comme François Hollande aille au chevet d'un nègre qui se dit faussement victime d'une sodomie par Tonfa, alors que lui est très bien informé du fait que c'est faux, pour poser devant les caméras. Il y a un rapport de force qui est établi là. Et Hollande se rallie aux autres. Vous voyez ? Ça, c'était un moment important. C'est pas avec les... La police est tellement démoralisée, je pense qu'ils n'arriveront jamais à rien. Ils sont au bout du rouleau. Le boulot de subversion est fait. Il est fait. Ils vont pas réagir. Les flics sont comme des lapins pris dans les feux d'une bagnole. Ils sont niqués. Ils sont niqués. Totalement baisés. Et les autres vont les rendre fous, hein, mais... Je sais pas ce que vous en pensez, mais et ça fait vraiment le lien avec ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'on voit que les autres, vous voyez, il y a de la suite dans les idées, quoi. C'est toujours pour renforcer la NAS derrière. Hein. Vous avez vu, paradoxalement, peut-être que j'en termine là-dessus, durant le confinement, jamais la police a été aussi encouragée à fliquer les gens, je veux dire. Donc là, il y a un truc, enfin, vous êtes d'accord avec moi, c'est schizophrénie, comment se fait-il que d'un côté on dit violence policière, brutalité policière, racisme d'État, c'est inacceptable, enfin, bref, désarmer les flics. Un mois après avoir dit aux flics, formidable, mettez plus de prunes à 135 euros au mec qui va fumer sa clope sur son pas de porte. Comment vous établissez le rapport entre ces deux positions?
Ben, les Traoré en eux-mêmes, ils sont fidèles à ce qu'ils font depuis plusieurs années. Hein. Ce qu'il y a, c'est que avec l'écho du pénis magique de George Floyd aux États-Unis qui est rapporté par les médias hein, et les réseaux sociaux.
Oui, et puis beaucoup de femmes blanches aussi hein, qui s'enthousiasment.
Voilà, ce que je voulais te dire, c'est que on retrouve dans ces célébrations œcuméniques des classes sacerdotales qui sont particulièrement remarquable, et en l'occurrence la classe sacerdotale des femmes blanches, hein, qui vont former un ordre pour le coup.
Ah, hein, j'allais dire les vestales, mais ça c'est pas exactement, c'est plutôt de la prostitution sacrée là. Hein.
Ouais, c'est ça. Et j'ai vu donc sur Montpellier, j'ai vu sur Marseille. Alors Marseille, hein, c'est intéressant.
Ouais.
Marseille, quand vous baladez au centre-ville, vous ne voyez pas vraiment de blancs normalement. Beaucoup des Arabes, des Nègres, enfin surtout des Arabes en fait. Hein.
Pas de blancs en centre-ville.
Ouais, ou en tout cas des vieux peut-être. Mais là, il y a eu des cortèges de femmes blanches assez jeunes, relativement jeunes, sorties d'un Cézou qui
ouais, sont... Ouais, d'accord, soudainement des blanches partout quoi. C'est...
Ouais, bon, il y avait les Nègres bien entendu, mais beaucoup de blanches. Plus qu'il y avait aussi des certains blancs, mais moins, beaucoup moins. Les femmes blanches étaient particulièrement déchaînées. Sur Montpellier aussi, j'ai vu les mêmes proportions de femmes blanches radicalisées qui venaient là pour exiger leur bout de divinité, leur parcelle de divinité. Hein.
Leur bout de pénis.
Voilà, une certaine idée de l'Eucharistie. Hein. elle venait manger Dieu, elle voulait manger Dieu.
Oui, ceci est mon corps.
Voilà, donc c'est à suivre. C'est à suivre et c'est ça pour moi. Bon,
donc à Marseille, on a vu comme ça des
femmes blanches. Des femmes blanches,
hystériques, le nègre. Quoi.
Ouais, le nègre, le Dieu. Quoi.
Le nègre n'est pas l'arabe, hein. Le nègre n'est pas l'arabe.
Hein. Non, c'est vraiment le nègre, hein. C'est le nègre rédempteur. Hein. C'est...
Le nègre, oui, rédempteur, ouais. La bite rédemptrice du nègre.
C'est ça qui est le plus important à suivre, parce que bon, l'histoire de... bon, c'est bien, là, je vous ai écouté là, d'une oreille sur la situation aux États-Unis, bon... ça me semble effectivement être assez bon, coup monté contre Trump avec la mise en avant des flics des villes gauchistes. Hein. On aurait pu parler aussi du shérif de la ville de Flint, qui était une espèce de...
T'en avais parlé la semaine dernière.
Voilà,
aussi.
On avait parlé, mais voilà, c'est le même truc. C'est les officines politiques gauchistes qui pervertissent l'autorité, puisqu'ils l'ont, hein, de fait, ils représentent l'autorité parce qu'ils ont une forme, et se mettent voilà, au service des idéaux les plus gauchistes, pour pervertir la société. Bref, mais en tout cas, au niveau, enfin,
Au niveau de la sociologie, peut-être, c'est ça que tu veux dire, hein, le plus le.
Ouais, j'ai pas trop regardé la sociologie parce que j'ai pas
trop. Ouais, non, aux États-Unis, les rassemblements, c'est beaucoup de femmes blanches. Hein, c'est.
Ça m'étonne très peu, hein, en fait. Hein, bon, mais c'est. Mais voilà, en France, on est sous cette comment dire. Cette menace qui est c'est ce fanatisme. Hein. C'est du fanatisme de femmes blanches. Hein. Elles sortent là, le coup de Marseille, je me dis, oh non, mais c'est pas Marseille, c'est pas possible. Il n'y a pas autant de blancs à Marseille. Ils ne sont pas là normalement. ils les ont inventés. Bon. À suivre. Et ces gens-là, ces femmes-là votent, malheureusement. Donc, c'est parce qu'on dit Marine Le Pen, une femme blanche aussi, peut-être lutter contre le racisme. Ossam Messia, je crois qu'il fait des sorties. Là, pour.
Oui, le vice-président du Front National a violemment condamné le racisme en disant que nous avions besoin donc, de la police et de la gendarmerie pour justement s'assurer que la France soit totalement antiraciste.
Voilà, sachant que les flics et les gendarmes sont là pour que vous ne. Ne surréagissiez pas quand vous vous faites cambrioler, c'est-à-dire que vous vous laissez tuer. Hein. Si vous ne faites pas trois sommations, par exemple, si vous avez, même si vous avez un couteau, je vois, si vous avez ou un bâton, si vous assommez un nègre qui vient chez vous, vous cambriolez, que lui il est armé, par exemple, mais c'est pas grave. Et si vous ne le prévenez pas, donc en le prenant par surprise, il est possible que vous allez faire un séjour en prison, parce que vous n'avez pas, voilà, c'est pas Coubertin, hein, vous n'avez pas prévenu le Dieu, vous n'avez pas prévenu cette représentante du enfin, ouais, c'est créé pas, c'est littéralement Dieu qui est venu chez vous, vous le refusez, donc pour blasphème, vous risquez d'aller en tôle. On est dans le religieux, dans le fanatisme. Le nègre.
C'est l'avènement du nègre. Non, mais quand t'as des blancs qui se rassemblent par centaines, par milliers pour vraiment vénérer, etc. T'as les flics qui mettent un genou à terre, nonobstant, etc. Les calculs, etc. On est quand même dans une dynamique générale, vous voyez, d'effondrement complet. Enfin, ça, c'est.
D'un côté, c'est quand même, je vois ça d'un bon côté, puisque c'est un problème. Que nous avons vu depuis plusieurs années.
Oui.
Mais que certaines personnes qui aiment beaucoup les juifs nous reprochaient. Vous voyez, sur les nègres, mais voyons, les nègres ne posent pas de problème. Le problème, c'est l'islam. Hein, les arabes, un petit peu, mais l'islam.
Oui, le racisme, s'il vous plaît, arrêtez un petit peu, quoi. Hein.
Oui, ou le racisme, oui, mais surtout le racisme pour les gens qui sont musulmans. Les autres, je suis bien, les Antillais, tout ça.
Oui, c'est très bien, ils sont. Ouais.
Des Congolais aussi, ça peut aller.
Beaucoup, voilà.
Non, le nègre. Le nègre n'est pas. Pas quelque chose qu'on.
Mais là, le nègre est l'arme privilégiée du juif, je veux dire.
Mais le nègre est l'arme biologique du juif.
C'est celle qui l'apprécie le plus, quoi, parce que le nègre est tellement stupide qu'on le manipule comme on veut, quoi.
C'est pas seulement ça. Il est stupide, certes, mais il est nuisible. Par sa nature même.
Tout à fait.
Le nègre n'a pas besoin d'être manipulé. Alors,
oui, voilà, tu le mets quelque part.
On l'aide un petit peu.
C'est comme une mine, en fait. C'est comme une mine.
Et puis, alors, ce qui est un des trucs les plus nocifs, c'est quand tu files un micro au nègre. Alors, déjà, tu lui apprends à parler français.
Oui.
Et on voit ce que ça donne. La France, hein, les plateformes de streaming, on avait fait des sujets là-dessus. L'état mental des Français, là, ce qui leur rentre dans les oreilles, c'est du nègre qui fait du bruit avec sa bouche. Si le problème nègre ne vous saute pas aux yeux après ça, vous avez un problème. Hein, c'est surtout ceux qui nous reprochaient de voir le problème nègre. Hein, ça leur va du booba dans les oreilles ou du. On s'appelle. Je ne sais même plus comment ils s'appellent tous ces nègres. Il y a juste à regarder sur n'importe quelle plateforme de streaming. Vous allez voir, c'est du nègre en autotune. Je me plais des fois à zapper sur la chaîne de musique. C'est consternant. Hein. C'est vraiment des singes qui font des paroles. Bébé, tu m'as envoyé un message, je t'ai pas répondu. Enfin, c'est du truc. Bon, du nègre, quoi. C'est du nègre. Et ça prolifère. Donc, ça pourrit les cerveaux. Ça se reproduit, comme c'est pas permis, avec l'argent des blancs. Ça, c'est le nègre prolifère parce qu'on lui file à bouffer. Hein.
Grâce à l'État républicain et sa politique très sage d'assistance sociale. Hein.
Grâce au socialisme français, hein, pour être précis. Socialisme.
Très important, l'aide sociale, très important. Ouais,
très important, c'est pour ça que. Il y avait eu un article sur le site, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur une nana qui parlait de faire baisser drastiquement les impôts et de réduire l'État pour chacun. Et puis on avait salué ça comme étant la meilleure façon d'être raciste. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez être raciste en France, vous allez
soyez libéraux.
soit la manière artistique comme nous de voir le nègre, le bougnoule, et de lui dire, tiens, un sale nègre, un sale bougnoule, et puis...
de voir ce que ça donne.
De voir ce que ça donne. Soit vous voulez baisser les impôts. Et là, c'est pareil que le Troisième Reich, vouloir baisser les impôts en France, c'est la même chose. C'est exactement la même chose.
Baisser les impôts nous rapproche du Troisième Reich, ça c'est sûr.
Bien sûr.
Mécaniquement.
Voilà.
Une petite chose. Il y a deux semaines, dans la dernière émission, si je me souviens bien, j'ai signalé le premier cas de policier qui mettait un genou en terre dans une ville nommée Santa Cruz. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Ah, ça me dit rien, ça, non. Mais je te crois.
Oui, d'accord. Or, Alexis nous apprend qu'on vient d'abattre un policier blanc à Santa Cruz, justement.
Ah, bah c'est intéressant, ça.
Oui. Un sergent qui est dans une embuscade qui s'appelle Götz Wieler, de nom, là, peut-être des origines germaniques.
Ah, ouais, ça a l'air germanique.
En tout cas, quelqu'un qui est blanc, y compris sur le haut du crâne, puisqu'il n'a pas de cheveux. Enfin, vous verrez...
Mais il est abattu dans une embuscade, c'est une embuscade criminelle ou comment c'est?
Ah bah oui, enfin disons que aux États-Unis on sait qu'il y a l'armement qui circule beaucoup. Là je connais pas la circonstance exacte, mais c'est relayé sur plusieurs médias. Sergent Götz Wieler, donc abattu il y a une dizaine d'heures à peu près, ce matin peut-être ou dans la nuit, donc à Santa Cruz.
Götz Wieler, il serait pas strasbourgeois par hasard?
Bah il est germanique en tout cas, ça c'est sûr.
D'origine, c'est familier.
Bon, en tout cas, messieurs, je pense que cette guerre raciale est très bien enclenchée. On va voir comment tout ça évolue au fil des semaines. Je vous dis à la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Mmh.